Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS. Et pour le monde entier, sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 27 octobre 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 28, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Belle musique, je ne m'en lasse pas.
Moi non plus.
17
pas
ans.
Pas la mesure.
Ce que je préfère, c'est quand même la fin, quand il y a que la musique.
Ah oui ?
Oui, je ne sais pas pourquoi. Hein ? Oui. Donc ce soir, mes invités, ça y est, j'ai déjà perdu le papier. Ah oui, voilà, c'est ça. Je vais recevoir le père Argouache. Alors, le père Argouache qui est directeur de la maison d'enfants de Riaumont, village de Riaumont. On le connaît pas bien, Radio Courtoisie, il vient pratiquement, des fois deux, trois fois dans le mois, il vient pas aux émissions. Ensuite, je recevrai Michel de Poncin.
Bonjour.
Bonjour Michel de Poncin, qui vient d'écrire un livre que je recommande d'ores et déjà, qui s'appelle Parlottes et Fêtes, qui est paru chez François-Xavier de Guibert, et qu'on pourra acheter quand on veut, où on veut, mais surtout le samedi 6 décembre, de 15h à 18h, chez notre amie Marie-Thérèse de Béjarry, la librairie Guettier, 66 avenue Théophile Gautier, 75 016 Paris. Alors, c'est pratiquement en face de l'église d'Auteuil. Et si vous y rendez donc le samedi 6 décembre, votre exemplaire sera élégamment ornementé de signature de Michel de Poncin. On lui donnera beaucoup de valeur pour plus tard. Vous pouvez léguer ça à vos enfants, ça ne sera pas frappé de droit de succession.
Oh, sait-on d'ici là ?
Bah oui, on ne sait pas. Donc, ensuite, Vinnie Vermeling. Bonjour Vinnie. Autre invité rare dans cette émission. Puis je recevrai le docteur Georges Pourtalet pour un livre qui vient de paraître qui s'appelle « Le corps a ses raisons que la médecine ne connaît pas » et qui est un bouquin très intéressant sur le rôle de l'alimentation et de la digestion. Et oui, on est obligé d'en parler quand même. On est obligé de parler des choses basses. On n'est pas obligé de faire comme Victoria qui mettait, pas Victoria la nôtre, mais la reine, qui mettait des manchons de dentelle aux jambes des pianos. C'est vrai ça, Marquis ?
Je ne sais pas.
Je ne savais pas, vous savez rien. On en foutait un truc. Ah bon, en plus, elle picole.
Oui, c'est une ribaude de ce
côté-là. Oh, une ribaude. Ça y est, l'ambassade de Grande-Bretagne est pendue au téléphone. Et je recevrai ensuite Patrice Serre, qui est auteur de bande dessinée. Mais enfin, il est auteur de bande dessinée, entre autres, parce que c'est un homme proté, et qui termine un album de bande dessinée consacré à un des personnages les plus extravagants, les plus extraordinaires de l'histoire du monde, probablement, qui est l'empereur Qin, qui est une espèce de mélange de Louis XIV, de Léonard de Vinci, de Napoléon, parce qu'il a tout inventé, tout fait. Mais comme en France, on considère que ce qui se passe en dehors de l'ère AI, européenne n'a pas... Oui, hein, oui c'est pas mon truc que je pratique aussi orthographe.
Vous manquez pas d'air,
oui. Pas d'air. Tout ce qui se passe en dehors de l'ère européenne n'a pas d'importance. On va quand même parler un petit peu de l'ère AI chinoise. Voilà. Avec Patrice Serre. Je crois que c'est à peu près tout. Non, j'ai oublié Jean-Pierre Bonnicot, qui est journaliste et qui viendra nous parler, j'espère, parce qu'il devait déjà être là, de son livre « Contrat sur la démocratie », dans lequel il raconte les dessous de la politique, si on peut appeler ça de la politique, à Toulon. Non, enfin, pas seulement à Toulon, sur la Côte d'Azur. Voilà. Donc, avant tout, je donne la parole à Patrick Goffman, qui voulait nous faire un peu de réclame. Je ne vous cacherai pas que cette réclame est tout à fait intéressée, puisque c'est une réclame pour le livre journal. Mais pas de la publicité, parce que Radio Côte d'Azur ne fait pas de publicité. Patrick ?
Présent.
C'est bien. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Patrick ?
Je vais très bien, je vous remercie. Je vous salue, Serge de Becquet. Je salue aussi la résistance et les résistants dans le monde entier et au-delà. Et je vous remercie de...
Le marquis, vous ne le saluez pas, lui ?
Ah bon ? Il ne me salue pas ? Non, je ne le salue pas.
Vous êtes fâché, vous ?
Je ne salue pas vos invités collectivement, parce que vous venez d'en faire la liste et elle est fort longue. Donc ils vont pas me tenir rigueur de ne pas les saluer nominalement.
Non, mais le marquis, quand même, je pensais que vous auriez fait une exception.
Je suis pas invité, je te remplace. Bon.
Je me prosterne à tes pieds, marquis, serviteur. Est-ce que ça vous paraît suffisant ?
C'est bien. Je préférais que vous parliez du livre journal, vous voyez,
plutôt. Vous êtes bien pointillé pour un repris de justice, parce que pas plus tard qu'hier, vous avez bien failli être condamné pour islamophobie, il me semble.
Oui, mais je vais en parler tout à l'heure de ça. J'ai échappé à l'opprobre.
Vous nous direz par...
Pour l'instant.
Vous nous direz par la même occasion si M. Humbert, Mme Falacci, M. Houellebecq et quelques autres ont été condamnés pour le même motif. Mais... Vous savez, je parle pas de ça en l'air, c'est que si effectivement, je l'avoue, j'ai souhaité redire un mot du numéro 333 du Libre Journal dont j'ai déjà parlé mercredi dernier à la veille de son bouclage, c'est que je constate que tout le monde n'est pas islamophobe. Et en particulier, il faut saluer M. Sarkozy. Il faut d'abord le saluer pour sa puissance de travail, vous serez d'accord avec moi, Serge, pour dire que ministre des Finances de la France de 2004, ce n'est pas de tourpeau. Eh bien, en plus d'assumer brillamment ces fonctions-là, M. Sarkozy pète le feu tous les matins des 7 ou 8 heures sur les radios périphériques, les télévisions le soir très tôt, et par-dessus le marché, il peut encore écrire un livre. Vous en avez, comme moi, commis un ou deux, vous savez que ça n'est quand même pas facile. D'autant que son sujet, c'est la loi de 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État, et la nécessité de la réviser pour faire une place plus chaude encore à l'islam. Vous voyez un peu le travail. Il faut connaître la loi, il faut connaître ses origines, il faut connaître ses résultats sur un siècle environ, et il faut proposer des réformes raisonnables. Vraiment, la puissance de travail de M. Sarkozy m'épate. Eh bien, avant même que ce livre ne soit annoncé, dans le Libre Journal de numéro 333 qui est en cours, nous racontons en détail comment M. Sarkozy, supplantant le ministre de l'Intérieur et des Cultes, son ami intime, Monsieur Galouzeau dit de Villepin, est allé à Asnières pour poser la première pierre d'une mosquée. Et nous racontons l'événement et nous expliquons en détail qui sont les promoteurs extrémistes pour lesquels il est temps en effet de crier 22 à Asnières. Dans le même numéro du Libre Journal, et vraiment nous pouvons en être fiers, nous avons une exclusivité absolue, c'est le récit de l'intérieur de la centrale des Murets, la nouvelle prison de Bertrand Cantat, de son arrivée un petit peu tumultueuse dans cette nouvelle prison en provenance de Lituanie, et du copain très inattendu qu'il s'est fait. Et je vous assure que c'est tellement inattendu, je ne veux pas dire qui c'est, et que j'invite nos lecteurs, nos auditeurs à devenir nos lecteurs, à se procurer ce numéro 333. En dernier lieu, nous avons choisi, face à la campagne de presse qui a frappé le délégué général du Front National, Bruno Gollnisch, tout simplement de lui donner la parole, sans le saucissonner, sans le couper, sans l'interpréter, et encore moins falsifier ses propos comme le font la plupart des médias, y compris certains qui devraient le défendre. Nous lui donnons la parole et nous analysons de près les textes, les propos attribués à certains dirigeants du Front National, et nous en tirons la conclusion, et ça n'est malheureusement pas la première fois, qu'il doit bien y avoir une ou plusieurs taupes au top du DFN. Voilà, on peut se procurer ce numéro ou tout autre contre un carnet de timbres ou 5 euros. On peut s'abonner un an à ce journal qui paraît trois fois par mois sur 24 pages pour la somme de 110 euros. Tout cela à la même adresse, SDB 4 place France Liste 75010 Paris. Et pour les rapiens et les mal comprenants, bah c'est toujours gratuit sur le site internet francecourtoise en un seul mot .info.
Merci Patrick.
À votre service.
À bientôt.
Au revoir.
Alors, je dois ajouter pour satisfaire ma délicieuse femme que si on veut recevoir le journal, il faut envoyer un carnet de 10 timbres poste, c'est-à-dire un demi-euro aux 4 places françaises, on reçoit le numéro, voilà. Je voulais parler du procès, parce que vous savez que j'ai vu un procès, c'est une affaire extraordinaire. J'ai un procès, je suis poursuivi par le parquet, et naturellement par les éternels embusqués au coin du bois qui se disent « il y a peut-être un petit peu de fric à gagner » de la Ligue des droits de l'homme franc-maçon et du mouvement pour le racisme, le racisme antisémitisme et pour la paix. Mais c'est contre, c'est ça. Le MRAP, qui n'est pas une organisation communiste, comme chacun sait. Et donc, je suis poursuivi par tous ces gens-là, parce que j'ai écrit que l'islam avait une volonté de conquête, et que s'il réussissait à nous conquérir, nous serions réduits en dimitude. Donc, je vous signale que si on vous dit ça, vous pouvez dire que c'est pas vrai, puisque ça justifie un procès. Donc, l'islam n'a aucune volonté de conquête, comme on peut le vérifier en considérant 15 siècles d'histoire, pratiquement. Et la situation du Dhimmi est parfaitement enviable. Vous n'avez qu'à aller demander au Soudan, par exemple, ou à d'autres, dans d'autres pays, à quel point vous demandez aux Coptes égyptiens, par exemple, ils n'ont pas fini de se réjouir d'avoir été réduits en dimitude par les musulmans. Vous pouvez en parler aux Grecs aussi, qui ont su, au moment de l'occupation ottomane, ce que c'était que vivre en dimitude. Donc, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que l'islam est lié au terrorisme en quoi que ce soit, et je ne le dis surtout pas. C'est pas moi qui le dis, c'est un collaborateur d'un site islamiste. Alors, je signale, vous lirez ça dans le prochain numéro du Libre Journal, pas dans celui dont vient de parler Patrick, mais dans le prochain. Un article que je trouve fort intéressant, puisque j'en suis l'auteur, sinon je ne l'aurais pas écrit, qui explique, qui est tout simplement la compilation ou plutôt la décortication d'un texte publié sur un site islamiste et qui est intitulé qu'il soit déclaré blasphémateur celui qui renie que l'islam est le terrorisme. Que le terrorisme fait partie de l'islam, c'est la phrase exacte. Et alors l'auteur qui signe El Mouhadjiroun explique avec toutes les citations y afférentes qu'effectivement il y a une co-naturalité intrinsèque entre l'islam et le terrorisme et qu'on n'a pas le droit de se déclarer islamiste si on n'est pas un adepte du terrorisme. Ça n'est pas moi qui le dis, moi je crois qu'il se trompe. Je crois qu'effectivement l'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour. Surtout l'islam modéré, qui est en France et pour lequel j'ai le plus grand respect, je m'empresse de le dire. Je veux dire que par exemple, la mosquée d'Anières, qui est dirigée par une association qui s'appelle Al-Hidaya Al-Islamiya, éditrice d'un livre intitulé « À l'ombre du Coran » de Saïd Al-Khotb, dont le frère est considéré comme le porte-parole d'Al-Muslimum, Al-Kiwan, la confrérie musulmane. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Vraiment, je trouve que, d'abord, dans un pays laïque comme la France, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'islam. Je vois pas pourquoi, d'un seul coup, on se mettrait à être catholique en France, hein. Il n'y a pas de raison. Ni dans le passé, ni dans la tradition, rien ne justifie une pareille dérive. Non, absolument. Donc, c'est très très bien qu'il y ait l'islam en France. Je m'en réjouis tous les jours. C'est très bien aussi qu'il y ait des synagogues. Attention, oula. C'est très très bien qu'il y ait des temples d'adorateurs de l'oignon.
Et comment ?
Mais alors, c'est très 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 mal qu'il y ait des scientologues.
Hein? Oui, ça c'est pas bien.
Oui, parce que vous savez ce qu'ils font les scientologues ? Il paraît qu'ils demandent de l'argent à leurs fidèles. C'est incroyable. Ah évidemment, c'est pas tolérable. Une religion qui demande de l'argent aux fidèles, hein, c'est absolument inacceptable. Donc je comprends très bien que Sarkozy poursuive les scientologues et aille inaugurer les mosquées, parce que les imams ne demandent pas du tout d'argent aux fidèles, pas plus que les rabbins, pas plus que les curés en tout cas. D'ailleurs, on va vous en faire la démonstration dans quelques instants. Bien, tout ça pour dire qu'on vit dans un monde qui est... Moi qui, finalement, vous voyez, il fait un temps où j'étais en colère. Maintenant, ça commence à me passer avec l'âge, en voyant approcher le jour du Grand Trou. Je me dis que j'aurais bien rigolé quand même. Et la dernière rigolade en date, c'est l'affaire de la commission Barroso. Parce que... vous connaissez l'histoire, donc Monsieur Barroso est invité à constituer une commission, autrement dit un ministère, un gouvernement de l'Europe, un ministère européen. Et alors il fait appel à Monsieur Boutillion. Monsieur Boutillion dit quoi ? On lui pose une question, il dit « Je considère, à titre personnel, en tant que catholique, que l'homosexualité est un péché ». Mais l'accomplissement de ma tâche de futur commissaire chargé de la justice et des libertés, d'ailleurs entre nous, quelle rigolade, la justice et les libertés, enfin bref. Donc en tant que commissaire, je ne ferai pas valoir mes considérations personnelles, j'appliquerai strictement la règle et je m'en tiendrai à une stricte neutralité personnelle. Mais que n'avait-il pas dit ? L'homosexualité est un péché. Ouh là 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 là, c'est vilain celui-là. Et alors les premiers qui gueulent, c'est les socialistes. Or, qu'est-ce que ça peut leur foutre aux socialistes qu'un type dise que quelque chose est un péché puisqu'ils sont athées ? Donc ils s'en sentent pas. Normalement, ils devraient s'en foutre. Ça, c'est comme les juifs qui gueulent quand on fait Edith Stein, quand on canonise Edith Stein. Qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'on canonise Edith Stein ? Ils sont pas catholiques. Pour eux, canoniser quelqu'un, ça n'a aucun sens. Non, il faut qu'ils râlent. Alors là, les socialistes disent, on a dit que c'était un péché, ils râlent. Mais ça prend des proportions phénoménales. C'est-à-dire que là, on a appris que M. Barroso, après avoir tenu bon, il vient de Calais et il vient d'expliquer que finalement, il allait revoir son projet de commission et que probablement M. Barroso, il allait faire ses déclarations ailleurs qu'à la commission européenne.
Il ne vous apparaît pas quand même que peut-être que tous les socialistes d'Europe se sentent quelque part en état de péché quand même. Je ne sais pas.
Vous voulez dire qu'ils sont tous pédés ? Non, quand même pas.
C'est pas ce mot-là que j'ai
entendu. Ah bon, d'accord. Bon, enfin, en tout cas, moi je trouve ça extraordinaire. Moi, si personnellement, si un rabbin me disait vous êtes en état de péché, je dirais mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Je m'en tamponne. Enfin, d'abord, c'est pas grave, c'est pas besoin d'aller loin. Les islamistes passent leur temps à dire que je suis un infidèle et que j'irai brûler dans les flammes de l'enfer. Mais si c'est les islamistes qui m'envoient, j'y suis pas rendu. Hein. Parce que là, ils me faites pas trop peur quand même, leur bon Dieu. De pacotille. Ça y est, pouf, encore un procès. Oh, bah, dites, arrêtez, il faut quand même pas nous pomper l'air. Donc, qu'est-ce que c'est que cette religion où ils nous racontent que s'ils tuent tous leurs ennemis, ils vont monter au ciel, ils vont pouvoir se taper 70 vierges et 70 éphèbes. Et boire du vin jusqu'à plus soif.
C'est embêtant d'être pédé héroïque en islam.
Ça dure pas longtemps, d'ailleurs. Bien, je voudrais alors dire une chose, tiens, puisque je suis en train de dire des choses agréables, je conseille à tous ceux qui le peuvent de lire le discours de Sharon. Je salue Plomplon au passage, qui va encore décréter que je suis un sioniste fanatique, mais je veux dire que j'ai lu le discours de Sharon sur l'abandon des colonies à Gaza. C'est un modèle de discours de grand homme d'État. Vraiment. Je suis stupéfait par la qualité de la pensée et de l'expression de cet homme. Si De Gaulle avait fait un discours comme ça au pied noir le jour où il leur a dit qu'il faut abandonner l'Algérie, on pourrait avoir l'ombre d'un début de commencement d'apparence, de silhouette, de respect pour cette vieille canaille. Mais là, rien. Il a rien dit. C'était vraiment, il l'a dit. Bon, Tandis que Sharon, il fait un discours qui est plein de compassion, qui est magnifique. Donc, lisez Sharon, laissez tomber Plomplon, Sharon est beaucoup plus intéressant. Vous pouvez aussi lire le discours de Chirac sur la Turquie, je vous le recommande parce que il a dit hier des choses qu'il dément aujourd'hui. Chirac dément. Ça vous étonne ? Pas moi. Ça m'étonne pas du tout, Chirac dément. Voilà. Alors maintenant, le procès d'hier, le procès n'a pas eu lieu. J'en suis désolé pour tous les amis adorables qui étaient venus. Oui. Écoutez, c'était rigolo parce que la salle était pleine. Et quand mon avocat, Maître Valrand Saint-Just, qui était, je le signale, un remarquable avocat, il a préparé un dossier, il est en train de préparer un dossier formidable sur cette question, mais il pensait qu'on pouvait faire encore mieux. Donc, il a sollicité du président un report. Ce qui a finalement été accepté malgré l'opposition de la procureuse, qu'on n'a pas du tout envie de se procurer d'ailleurs. Et donc le procès est remis au 2 juin. Et alors le président du tribunal a dit remis au 2 juin. Et messieurs, vous pouvez disposer. Alors, je suis sorti, suivi de mon avocat. Et à ce moment-là, toute la salle s'est levée, pratiquement. On peut dire, hein?
Oui, la salle s'est levée.
80% de la salle s'est levée, et tous les gens sont sortis. J'avais fait la salle.
Voilà.
J'étais quand même assez fier d'avoir.
Moi, je vous disais que pour une autre histoire qui passait après vous, il y a un monsieur qui préparait son dossier avec son avocat, qui m'a dit, mais Beketch qui est là-bas, c'est bien celui de Radio Courtouest.
Ah, c'est rigolo. Hein. Même des repris de justice nous écoutent.
Je vous apprécie en plus qu'hier, vous êtes toujours très élégant. Hier, vous étiez un chic fou.
Ouais.
Avec la cravate fleur-de-lysée pour vous présenter sous les lambris de la République, c'est très bien.
Toujours. Chaque fois que j'ai un procès, je mets une cravate à fleur-de-lys. C'est quand même
la moindre des choses.
Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, puis alors, on est allé, enfin moi j'y étais, j'ai vu personne d'ailleurs d'entre vous. Si, le père Arlouache, au 25 ans du centre Charlier. C'était bien, hein, père?
Ah oui, c'était plein d'humour.
Charmant.
Et puis, il y avait un esprit de reconquête qui soufflait quand même, malgré tous les coups de bâton qu'on a pu prendre depuis 50 ans. C'est extraordinaire qu'on ait encore cette espérance.
Ouais. J'ai trouvé le discours de... Madiran était formidable, tout le monde était excellent.
Et vous aussi, parce que vous étiez plein d'humour et vous nous avez fait rire. On a un vrai chansonnier, fantastique.
C'est vrai, j'étais excellent. Il faut quand même le dire. J'en fais un peu trop là. Non, il y a eu un discours formidable, c'est celui de la Tocnay. Qui était une invitation à reporter le combat que nous avons mené pendant des années, et puis qui a fini par aboutir, contre l'Empire soviétique. Et il nous a invité à le reporter et à le continuer contre le nouvel Empire du Mal. Je ne dirai pas ce que c'est, parce que je ne voudrais pas encore avoir un procès par les islamistes. Ça commence à faire beaucoup.
Il faut souligner le film de Michel Barski.
Ah oui.
Moi qui m'a fait pleurer. Voilà. J'ai pleuré à un moment du film. C'était
formidable film.
Plein d'émotions.
Qu'on peut se procurer d'ailleurs, 70 Boulevard Saint-Germain. Il existe en CD et en DVD. Je crois que c'est 25 euros.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Alors, seul, je vous conseille de le lire, parce que c'est 25 ans de combat politique de Bernard Anthony et de... Et puis pas seulement Bernard, de tous les gens qui ont travaillé avec lui. Mais Bernard a fait une chose qui est quand même assez rare, qui n'est pas du tout stalinienne, c'est-à-dire qu'il a éliminé personne. Mais pas plus les gens avec lesquels on s'est fâché, que ceux qui se sont séparés et tout. Et c'est très 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 amusant, très passionnant à voir toutes les manifestations qu'on a faites pour le boycott des Jeux Olympiques en Union Soviétique, pour les différentes résistances catholiques ou résistances chrétiennes dans le monde, les contrats au Vietnam, tout ça est rappelé par des images superbes et par des extraits de discours où on voit, et c'est vraiment un document historique sur les 25 dernières années de la droite nationale. Il y a des extraits de discours de Le Pen formidables où on voit Le Pen il y a 20 ans, et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a 20 ans, il a l'air d'avoir 20 ans de plus qu'aujourd'hui. Donc je sais pas, à mon avis, il boit du sang de bébé, cet homme-là, parce que il est incroyablement plus vieux sur les photos, sur les images d'il y a 20 ans que maintenant.
Portrait de Dorian Gray à l'envers.
Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Voilà.
Et puis il y avait la messe aussi, avec Don Gérard.
Là,
la messe. Il y a eu une messe.
Ah, la messe, vous voulez dire la messe,
le matin, il y a une messe catholique. Oui. Parce que
toujours parler boulot.
Il y en a encore quelques-unes, hein, malgré tout ce qui se passe.
Et puis les messes catholiques, c'est rare, il faut les souligner.
C'était une vraie, celle-là.
Ouais.
Tiens, puisque vous avez la parole, je vous la laisse. Alors, vous voulez nous parler de diverses choses. Et alors, à la surprise générale, vous allez nous parler de Riaumont. Alors, voilà. Mais avant de parler de Riaumont, vous voulez lancer un appel.
Oui, parce qu'on a énormément de scouts de Riaumont sur Paris et on cherche simplement un local pour des louvettes, des louveteaux, des guides, un local quand même assez grand, qu'on puisse se réunir quand il pleut, tout simplement. Intramuros, dans Paris. Voilà.
Ah oui, très bien. Mmh. Un local, c'est-à-dire quoi, 100 mètres carrés,
Oui, c'est ça.
100 mètres carrés.
Oui, oui.
Et ça peut être un garage.
Oui, absolument, oui. Ce serait formidable, parce que pour l'instant, le matériel est à gauche, à droite.
Plus à droite qu'à gauche.
Je n'avais rien dit.
Non, mais c'est moi qui le livre. Donc, si vous avez dans Paris, bon, allez, si vous avez dans Paris 100 mètres carrés dont vous ne savez pas quoi faire, proposez-les au Père Argouache pour les scouts de Riaumont qui ont besoin d'un local.
Maintenant, alors, une occupation permanente ou occasionnelle?
Occasionnelle pour le week-end.
De temps en temps.
Samedi, dimanche.
C'est Michel de Poncin qui va proposer une des pièces de son immense château parisien.
J'aurais peut-être une petite idée.
Bon, merci beaucoup.
Vini, tu n'as pas ça, toi, dans tes... Toi qui es capable de tout.
Non, je n'ai pas de salle de 100 mètres carrés.
Si vous avez besoin de médicaments, tu vas bien l'emporter,
des
médicaments.
J'ai un studio de 10 mètres carrés, oui.
OK. Et maintenant, vous faites le 11 décembre... Le marché de Noël de Riaumont qui devient une institution.
Oui, c'est ça, tous les ans. Et c'est vrai que c'est très beau de voir Riaumont illuminé avec tous les stands.
Toutes
cette
les petites cabanes, les petites...
Oui, oui. Ça ressemble aux places d'Arras, d'ailleurs, tout le dessus. Et puis avec un orchestre, avec une crèche vivante. Il y a beaucoup de choses. Bon, c'est bien de venir.
Mais un spectacle.
En fait, les gens peuvent repartir à Paris pas trop tard parce que ça termine à 22h. Donc à minuit, ils sont à Paris. Voilà, mais c'est beau.
Et puis en Riaumont, déjà en été, c'est formidable. Alors en hiver, je vous dis pas, c'est extraordinaire. Hein.
Oui, bah, s'il y a la neige, ça sera vraiment un paysage de carte postale.
S'il y a de la neige, pour ceux qui tombent sur les corons et sur les terrils, ça peut être évocateur de la Suisse. Mais
oui, non, mais les terrils ressemblent aux pyramides égyptiennes. Les corons sont rénovés. Donc on a tout fait pour accueillir les gens.
Non. Et ça ressemble aux pyramides égyptiennes, l'été?
Le soir, quand il y a le soleil rouge qui est derrière, oui, absolument. Oui.
Il a un cœur énorme, il arrive même à aimer le paysage de Liévin. Il faut vraiment avoir une innocence extraordinaire.
C'est très beau.
C'est très beau, oui.
Il y a Riaumont.
Ça m'a pas beaucoup frappé.
Il y a Riaumont au-dessus qui est
Riaumont,
un village gaulois et c'est à Liévin.
Ouais. Mais Riaumont, oui. Mais le reste, je dois dire que sur le plan esthétique, j'ai quand même vu déjà mieux. Hein.
Vous êtes venu un jour où il pleuvait, à mon avis.
Oui, je ne sais pas, un jour. Chaque fois que je suis venu, il pleuvait.
Vous savez, le Pas-de-Calais.
Premièrement, il pleuvait. Oui. Deuxièmement, je me perdais. Et troisièmement, il y avait du brouillard.
Vous savez comment on représente le Pas-de-Calais le soir dans les films un peu partout? C'est toujours le soir, une flaque d'eau et un chien qui lape la flotte.
Ce qu'on se demande, c'est comment les chiens peuvent encore avoir soif.
Voilà.
Bon, et alors, on peut y aller en toute sécurité? Vous aurez fini les travaux de sécurité ou pas?
Alors, il y a une équipe de sécurité, un de mes anciens d'ailleurs, qui fait la sécurité.
Et non, mais les travaux d'aménagement de la sécurité.
La sécurité, écoutez, il nous faut trouver. Vous savez, ceux qui m'écoutent, je demande toujours de l'argent, mais vous avez parlé d'une sorte d'invasion. Je ne sais pas si c'était vraiment une invasion. Il y a encore des petits bastions catholiques qui ont besoin de respirer, de vivre. Et nous, on risque d'être étranglés à cause de la sécurité. On a besoin de 85 000 euros pour rénover un bâtiment. Et c'est vrai que l'école pourrait même être fermée à cause de ce problème.
85 000 euros?
Oui, simplement pour faire l'électricité et l'alarme d'un bâtiment.
Ça fait 600 000 francs, quoi, ça.
Voilà. Mais bon, voilà. Mais c'est tout. À force de crier, peut-être que je serai entendu.
Peut-être, oui. Peut-être.
Mais moi, le bon Dieu me demande de crier, je crie, puis voilà. C'est comme les coqs de Riaumont, tous les matins, il n'y a pas de problème. Ils ne ratent jamais un de leurs cris, tous les matins.
Alors, je vais quand même faire une confidence aux auditeurs. Vous ne serez pas contents, mais tant pis. C'est que le père Argouache est en train d'écrire un livre sur Riaumont. Et je parle de ça à cause des coqs de Riaumont. J'ai lu le premier chapitre. Je peux vous dire que s'il tient le coup, s'il respecte son pari. Non, mais c'est pas un pari. Si vous respectez la ligne que vous avez adoptée pour le premier chapitre, ça va être un grand bouquin. Est magnifique. Et je pense à ça parce que l'évocation des coqs, le premier chapitre est vraiment superbe. Alors le deuxième, j'attends parce que je dirais ce que j'en pense.
Je vous ai demandé une note sur 20, mais vous m'avez pas donné de note.
Je dirais 16.
Bon. Moi qui suis pas écrivain, ça me fait vraiment plaisir.
Non, c'est vraiment formidable. Alors vite, il faut vous dépêcher, il faut être coché d'abord, ça vous rapportera du fric pour payer. Vous achetez une nouvelle voiture, non? Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle voiture.
Non, non, je rêvais d'avoir une moto quand le père avait, avait une BMW. Oui, mais il me disait, non, tu n'as pas le droit de conduire de moto, ta vie est trop précieuse.
Voilà, exactement. Ouais. Et puis vous avez besoin de maçons aussi pour l'église?
Voilà, l'église.
Alors où s'en est l'église?
Alors le clocher, les poutres, la charpente est montée. Grâce à notre grue, on a pu monter la charpente. Il faut couvrir. Et puis la pierre, ça avance grâce à Monsieur Repars, qui est tailleur de pierre, qui est venu de Mayenne spécialement. Notre maçon. Et puis on cherche d'autres maçons d'appoint qui pourraient passer 15 jours.
Pas des tailleurs de pierre, des maçons maçonnants, quoi.
Oui, oui, qui montent du pavé, qui montent du granit, du
grétartois. Qui
soit d'une grande franchise avec nous, ça c'est sûr que c'est très bien, ça marche très bien quand tout le monde est transparent, il n'y a pas de problème.
Donc, récapitulons. À Paris, un local de 100 mètres carrés, des maçons bénévoles,
85 000 euros
pour la sécurité. Donc 85 000 euros, ça a l'air énorme comme ça, mais c'est 85 personnes qui donnent 1 000 euros. Ou si vous préférez, 170 personnes qui donnent 500 euros. Vas-y, je te laisse continuer parce que là, je suis largué.
Bon. En tout cas, c'est très gentil d'en parler. Je suis toujours très ému de parler à Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.
Mais
et
on est content de vous avoir. En plus, il prie pour nous.
Et qui défend les petits villages catholiques encore en France.
Mais j'espère que vous faites prier les scouts pour nous, quand même.
Ah oui, oui, absolument.
S'il paraît que les prières d'enfants, ça booste pas mal.
Oui, oui, oui. Bon. Oui, beaucoup plus que les autres, oui. C'est pour ça qu'on nous demande d'avoir un cœur d'enfant. Dans l'évangile, pardon.
Bien. Bon. Alors, la Sainte-Croix de Riomont, village d'enfants de Riomont, boîte postale 28. Vous notez, Victoria, s'il vous plaît. Non, elle note même pas, j'en fiche complètement. 62 801, Liévin, Cedex.
Alors,
les chèques pour la sécurité, c'est à l'ordre de Sainte-Croix?
À l'ordre de Notre-Dame de Riomont.
Notre-Dame de Riomont. Alors, l'échec pour la sécurité, Notre-Dame de Riomont. Si vous voulez, si vous êtes maçon et que vous avez franchement envie de venir au village de Riomont, vous téléphonez au 03 21 28 32 09. 03 21 28 32 09. Vous serez hébergé, nourri.
Tout.
Choyé.
Ah oui, oui. On peut dire logé.
Oui, logé. Non, mais c'est oui, logé. Oui, bien sûr, pour des maçons, c'est le moindre des choses. Mais en plus, vous verrez. Non, mais je blaguais tout à l'heure sur l'esthétique du. Mais c'est beau le village. Il est vraiment impressionnant. Vous l'avez vu, Michel de Pensin?
Non, non, j'ai pas.
Il faut venir un jour. C'est comme un village de. Moi, ça me fait penser au village de Blanche-Neige.
J'ai là un jour, non, mais.
C'est vraiment magnifique. Toi, tu connais.
Il y a plein de petits nains, c'est les petits enfants.
Oui, oui. Comme dirait François Plantel l'autre jour, ça provoque un scandale chez les auditeurs, qu'il a dit les enfants sont des nains à moitié fous.
C'est une jolie définition.
J'ai reçu des dizaines de protestations. Mais c'était une plaisanterie, en fait.
Oui, il ne faut pas prendre ça au premier degré.
Eh ben non, évidemment. Oh.
Là, je trouve plutôt à côté Astérix, le village d'Astérix aussi.
Oui, c'est ça, le village d'Astérix et le Blanche-Neige. Oui, c'est vrai.
Oui, il y a les deux.
C'est vrai que les Gaulois étaient là, sur cette colline, sur ce promontoire.
Ah, oui, c'est un oppidum gaulois.
Oui, on a trouvé des pièces.
J'ai un souvenir de fête de la Saint-Jean, le spectacle des cathédrales, là, c'est extraordinaire.
Oui, c'était bon. Ça, c'était vraiment bon. Moi, j'ai pleuré ce jour. Comme un veau. Marché de Noël le samedi 11 décembre. Alors là, si vous pouvez venir aussi, venez. C'est pas très loin. Vous organisez des navettes avec.
De Lens. Si vous arrivez en TGV, ouais. Direct, en 1h05.
Voilà.
On va vous chercher à la gare SNCF de Lens, à 3 km. Et puis
Et c'est joli parce que, comme on le disait tout à l'heure, les enfants ont reconstitué avec. Ils ont fabriqué des maquettes, mais des maquettes à grandeur d'homme, des maisons. Du Nord, vous savez, ces maisons d'art avec les devantures un peu arrondies, comme ça. C'est éclairé, c'est peint, c'est joli. Et chaque petite maisonnette propose, alors, des confiseries,
la soupe à l'oignon, des merguez, des petites choses à acheter.
C'est plein de petits cadeaux
qu'on peut faire.
La porterie est ouverte, on peut acheter des bouquets, on peut acheter... Vraiment, ça vaut le coup. Voilà.
Mettez-nous donc le téléphone, tiens, vous serez...
Monsieur le directeur, je m'appelle monsieur le directeur. Le téléphone, 0321... 28-32-09. Voilà, Liévin, le village d'enfants de Riomont. Monsieur le directeur, merci.
Merci Serge, et encore bientôt.
À bientôt.
Bon courage.
Un auditeur vous fait une suggestion, tiens. Je l'ai perdu. Pourquoi ne demandez-vous pas à Nicolas Sarkozy qu'il vous subventionne et qu'il vienne inaugurer
Lui qui aime tant les mosquées, il pourrait vous aider un peu plus.
Oui, pour bénir, on a demandé à l'évêque d'Arras qui est venu bénir la première pierre. Donc on n'a pas pensé effectivement qu'il avait le pouvoir de faire des bénédictions. Mais j'ai l'impression que si on lui demandait de venir...
Je suis sûr qu'il serait content.
Oh là là, sûrement, sûrement.
Oui. On va lui demander de venir. Il faut qu'il s'habille en schtroumpf, il sera applaudi par les enfants.
Bon, bien. Le 11 fini. Novembre, c'est de quelle heure à quelle heure ?
11 décembre.
11 décembre.
C'est de 17h à 22h.
On en reparlera, mais...
Oui. Mais c'est vrai.
On peut arriver avant 17h.
Merci.
Merci, mon père. À bientôt.
À bientôt.
Je me tourne maintenant vers Michel de Poncin, qui va, avec qui nous allons parler d'un livre qui est pour moi le témoignage... De l'extraordinaire asservissement de la presse française. Parce que Michel de Poncin a écrit un livre qui s'appelle donc Parlotte et Fête, dans lequel il recense et il raconte avec beaucoup de talent, d'humour et de vivacité, il raconte comment ça se passe dans la haute fonction publique, chez les IFI, c'est le mot qu'il a inventé pour qualifier les hauts fonctionnaires, et dans tous les organismes qui sont mis en place par ces gens-là, par les élus, enfin par tous les rats qui se promènent dans le fromage de l'État, pour avoir encore plus de fromage sur le compte de ceux qui fabriquent le fromage, c'est-à-dire nous autres, les pauvres cons, contribuables. Ce bouquin, au fond, c'est le recensement de choses que... Vous n'êtes pas, Michel de Poncin, un grand reporter.
Non, absolument pas.
Vous n'avez pas fait d'enquête faramineuse.
Non, pas du tout.
Vous allez simplement chercher l'information où tout le monde peut la trouver. Vous la compactez, si j'ose dire, et vous la portez après lui avoir donné une forme digeste.
Absolument.
Digérable. Je crois qu'on dit digeste, c'est très bien. Et le résultat de cette lecture est totalement ahurissant.
Absolument.
Or, alors, je termine, je vous donne la parole tout de suite. N'importe quel journaliste débutant dans n'importe quel journal modeste pourrait faire le même travail. Personne ne le fait. Mais mieux que ça, je pense que si quelqu'un le faisait, non seulement il ne pourrait pas le publier, mais il serait viré immédiatement, parce qu'on dirait qu'il a mauvais esprit. Ce qui veut dire que la presse, pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer, il n'y a pas de raison logique, est totalement complice du véritable racket qu'un gang de prédateurs qui comprend les élus, les hauts fonctionnaires, les responsables de sociétés d'économie mixte, et les responsables de grandes sociétés d'État, et puis aussi les gens des conseils d'administration de toutes ces sociétés, un racket que tous ces gens-là pratiquent sur les fonds des contribuables. Alors, maintenant je vous donne la parole. Comment expliquez-vous la question ? Comment expliquez-vous, si vous avez une explication, que aucun journal, jamais, à l'exception du Libre Journal qui se permet de republier certains de vos textes qui sont sur Internet, aucun journal ne vous ait jamais confié une rubrique suivie pour éclairer les lecteurs ?
Alors l'explication, Serge, vous la connaissez aussi, mais beaucoup de gens ne la connaissent pas, l'asservissement de la presse. Je dirais, primo, la grande presse est elle-même assise à la table du banquet. Donc elle est solidaire du banquet républicain, comme il dit. Bon. Et donc, ils ne vont pas rogner sur leur propre salaire, leur propre richesse. Et les liens entre la presse et puis le butin de la République... je ne sais pas si vous vous souvenez de Madame Jouvier d'Ancourt ou je ne sais pas quoi, qui s'est appelée elle-même la butin de la République, elle s'est appelée elle-même, donc socialisée. Et moi, j'ai un chapitre où je mets le butin B-U-T-A-I-N de la République.
Bon. Ouais.
Eh bien, ils sont assis eux-mêmes sur ce butin par des liens multiples que je cite dans le livre d'ailleurs. Mais par exemple, je me trouvais un jour dans un local de l'ambassade de France en Italie le soir, et pas du tout l'ambassade ou le consulat, un local tout à fait secondaire, et ben j'ai vu arriver 20 journaux du journal Le Monde. Ah, donc, c'est ça. Ah, oui, donc, d'accord. C'est formidable. Ouais. C'est absolument formidable. Donc, quand on sait, et vous savez, vous, l'importance des abonnements, quand on sait l'importance des abonnements, si on faisait le total de tous les abonnements publics au journal Le Monde, mais on arriverait peut-être à 20, je sais pas, 20 000, 30 000, 40 000, je sais pas, puisque c'est un local secondaire d'une ambassade en France. Donc, c'est pas la mairie de...
C'est, à mon avis, beaucoup plus que ça. La fonction publique.
Beaucoup plus que ça, c'est énorme.
Et les institutions doivent prendre plusieurs dizaines de milliers d'abonnements du monde au total. Je précise qu'il n'y a aucun abonnement du Libre Journal, même pas quand on avait les mairies du Front National. La première chose qu'on a fait, nous, bêtement, on a envoyé le journal aux quatre mairies en disant « Est-ce que vous voulez vous abonner ?» On n'a même pas eu de réponse. Et alors que j'étais collaborateur à Toulon de Le Chevalier, la bibliothèque de Toulon n'était pas abonnée au Libre Journal.
Ouais, ouais. Alors donc, vous avez les abonnements, vous avez la publicité. Parce que lorsque vous regardez la publicité des grands journaux, c'est peut-être la moitié de publicité étatique. Là, je voyais dans le Figaro aujourd'hui la SNCF qui fait une énorme publicité. Oui. Vous avez la Sécurité sociale, une énorme publicité.
Mais on comprend, parce que, écoutez, imaginez que les gens qui veulent voyager par le train en France décident d'un seul coup de faire appel à quelqu'un d'autre que la SNCF.
Oui.
Hein? Ou alors, les gars, qui sont malades, ils vont se faire rembourser par une autre association que la Sécurité sociale. Ou si vous voulez acheter du gaz, vous décidez de ne pas faire appel à Caisse de France. Des choses comme ça, oui. Ça sera embêtant pour ces entreprises. Donc on comprend qu'elles fassent de la pub quand même.
Ouais. Alors, d'ailleurs, je signale aux auditeurs, la publicité de la SNCF, ça vaut son pesant d'or, parce que il y a juste une fois le mot grève, hein, mais tout juste,
Pour parler des plages.
Alors que c'est l'essentiel, je dirais, des défauts actuels. Ils s'engagent toujours que les trains vont arriver à l'heure, etc. Bon, mais alors, il y a tout de même une fois le mot grève, je crois.
Sauf incident indépendant de notre volonté.
Voilà, mais même, ils ont prononcé tout de même. Bon.
Vous avez remarqué qu'à la SNCF, à la RATP, on ne parle jamais de grève, on parle de mouvement social.
Oui, oui,
c'est-à-dire que la différence entre le mouvement et le mouvement social, c'est le mouvement.
Oui, c'est ça.
Quand les choses sont arrêtées, ça s'appelle un mouvement social.
Quand tout s'arrête, il y a mouvement.
Oui. Oui, c'est ça. Alors, j'ai mis en scène ces parlottes et ces fêtes parce que le gouvernement actuel, successeur des autres, images clones des autres, bien entendu, ne fait aucune réforme. Ça ne bouge pas du tout, ce qu'ils appellent des réformes. Il n'y a pas de réforme, mais ils font des parlottes et des fêtes. La parlotte, ça veut dire on s'occupe de vous, gna 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 gna, et puis dans la parlotte, il y a la fête.
Il y a la fête. Alors ça, c'est ce qui est ahurissant quand on lit votre bouquin, c'est de découvrir à quel point ces gens-là passent leur temps à bouffer et à boire. Ils ne font que ça. Alors, ils organisent une vague commission, une commission de réorganisation des commissions qui s'occupent de réunir des commissions. Vous savez, c'est la fameuse histoire des organisateurs de Tombola, à profit des organisateurs de Tombola. Et puis, naturellement, il faut manger. Alors, à midi, on se retrouve dans un restaurant. Puis, l'après-midi, on fait un petit cocktail, quand même, en fin d'après-midi, pour célébrer le fait qu'on a lancé une nouvelle commission. Donc, on inaugure cette commission le lendemain, avec un déjeuner. Et puis, on se réunit après pour faire un cocktail, pour saluer les premiers travaux de la commission. Ça n'arrête pas.
Voilà.
Moi, j'ai de l'admiration pour la compagnie.
Alors, ils ont énormément d'imagination dans la dénomination de ces parlottes. Je vais les citer parce que c'est vraiment drôle. Il y a les assises, il y a les grandes conférences, il y a les sommets, les états généraux, les grands congrès, les grandes... Et puis alors, il y a aussi les forums, les journées, les semaines, les colloques, les missions. Mais alors, chaque fois, ils choisissent quelque chose de différent. Et puis même, ce qui est extraordinairement drôle, il y a les grands messes. Ils disent ça, on vous invite à une grand messe. Alors, pour des gens qui vont rarement à la messe, c'est plutôt comique.
Et alors, vous aviez calculé, je crois, je ne sais pas si c'est dans ce niveau-là, je ne me souviens plus, mais le coût approximatif de l'alimentation d'un participant à cette fête permanente, quoi. C'est les fêtes
galantes. Alors j'arrive assez souvent à des chiffres tout à fait considérables, parce qu'il se trouve que probablement par distraction, ils m'invitent de temps en temps à leur fête, donc je fais les calculs.
J'espère que vous en collez jusque-là.
Et puis avec des amis, au fait du très mauvais esprit, au fait le calcul du coût. Et si vous totalisez les grands vins et la nourriture, ce n'est qu'une base, mais si vous totalisez les salons, les palais, tout le personnel adhérent, toute la fuite, parce que celui qui commande des milliers de bouteilles, il doit bien y avoir des bouteilles qui fuient pour ses besoins personnels, il y a de la casse, etc. Et ben, j'arrive souvent en francs, alors il faut traduire en euros, mais disons en francs à 5000 francs, c'est-à-dire à 800 euros pour les très grandes occasions et les moins grandes occasions.
Par tête de pipe.
Par tête de pipe, J'ai un exemple que je cite, c'est que je connais, c'est très agréable, je connais le cuisinier d'un un président de conseil général, et je suis très content parce que ce cuisinier a un très beau job. Et il me dit, mon président, ben d'abord il y a deux ou trois cocktails chaque semaine, et en plus quatre à cinq déjeuners, donc il ne déjeune pas seul. Et comme en mettant ce président et une affaire de travaux publics, vous pensez les retombées flatteuses qu'il peut avoir. Et j'ai cité cet exemple à des amis qui connaissent le système, qui m'ont dit, mais celui-là, il n'est pas encore très dépensier, il y en a d'autres qui... Alors le cuisinier est très content, il a un très bon boulot.
Ah ben ça, oui. Et regardez quand même l'histoire de l'hôtel de ville de Paris, le couple Chirac qui a dépensé.
Alors, c'était 2 millions de francs, je crois, qu'on accuse de frais de bouche. Oui.
Par an, c'est 4 millions par an, je crois.
Oui, peut-être que c'est absolument gigantesque.
Il n'est même pas gros, en plus.
Il n'est même pas. Et alors, à l'hôtel de ville de Paris, du temps de Chirac, j'avais une amie qui était directrice des archives, je ne sais pas quoi, elle était invitée, elle me dit, mais il y a 3 ou 4 cocktails chaque jour à la mairie de Paris. Alors, de quoi, pourquoi, etc. Bon. Et alors j'ai un chapitre qui s'intitule « Le droit aux bouteilles des conseillers généraux ». Parce que, figurez-vous, qu'il y a un président de conseil général qui a été pincé parce qu'il était brusquement, il n'était plus président du conseil général. Et deux jours après, il est venu déménager des bouteilles avec ses enfants. Bon, donc... Théoriquement,
c'est pour leur éducation,
pour leur apprendre comment il faut agir. Ouais. Bon. Alors je disais, au fond, l'erreur qu'il avait fait, ce brave homme, c'était de ne pas consommer avant, puisque avant, il avait le droit légal de consommer toutes les bouteilles. Et puis, à cette occasion, on a appris le nombre de bouteilles de grands crus qui existent dans la cave de ce Conseil Général. Mais si vous avez la cave de l'Assemblée, la cave du Sénat, c'est absolument... c'est-à-dire que c'est un capital absolument formidable. S'il y avait en France un pouvoir libérateur, parce que ce livre-là, est comme d'autres, est optimiste, et je crois qu'un jour, il arrivera un pouvoir libérateur, il faut qu'il renonce officiellement au fait, pour ceux qui les concernent, qu'ils vendent les bouteilles, qu'ils licencient le personnel, sauf bien entendu la question de recevoir les ambassadeurs ou d'autres personnes comme ça.
Ils peuvent recevoir dans un restaurant, vous savez, ça ne coûtera pas plus cher.
On pourrait même, et qu'ils sonnent la fin des fêtes publiques.
Parce qu'en plus, ils le font. Si vous imaginez cette chose, maintenant il y a une nouvelle mode dans le monde politique de haute volée, de haut voleur. Quand Chirac reçoit, par exemple, son homologue allemand, comme on dit, qui n'existe d'ailleurs pas, ils vont dîner chez Tartemolle, rue de la Poupée qui tousse. Alors, à l'Élysée, il y a douze cuisiniers, 45 serveurs, toutes les réserves de bouffe qu'on peut imaginer, les bouteilles, les larbins, etc. Et puis, ceux-là, ils vont se coucher. Mais on déplace 40 policiers, on bloque complètement un quartier pour aller faire bouffer deux chefs d'État dans un restaurant dont on a viré tous les autres clients, ce qui laisse à supposer d'ailleurs que le propriétaire du restaurant, il a dit, écoutez, là, le menu à 12 euros, je peux pas vous le faire, hein, parce que comme il n'y aura pas d'autres clients, vous êtes obligé de vous le mettre à 14 euros. Vous comprenez? Bon. Non, mais, alors, tout ça, c'est du fric qui est volé aux contribuables.
Ah, mais, absolument. Et je cite un chiffre qui étonne toujours les auditeurs ou les lecteurs, c'est le coût des vœux publics.
Ah oui, c'est
arrivé. J'ai essayé de l'évaluer, c'est de l'ordre de 500 millions de francs, c'est-à-dire un peu moins de 100 millions d'euros. Alors, les gens sont toujours étonnés, mais les vœux publics, ça s'étend sur tout le mois de janvier, parce que vous avez non seulement les vœux du premier, les vœux de chaque ministre, vous avez les vœux des maires, des maires d'arrondissement, vous avez les vœux des conseillers généraux, des vœux, etc. Mais il y a non seulement le cocktail, il y a les cartes de vœux, et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce ministre de l'Intérieur qui avait
eu Napoléon sur devise en Jeanne d'Arc.
Obscène. Il y a les affiches. Quand je sors de chez moi à Paris, je reçois en pleine figure les vœux du maire de Paris, donc j'ai vraiment... Rien à faire, les vœux par l'affiche. Oui, mais... sur l'affiche, un logo très cher.
À propos du maire de Paris, je me demande quand même s'il ne serait pas justiciable d'un petit examen psychiatrique, parce que vous avez vu ces récentes affiches, quand même. Là, maintenant, on a eu droit pendant quelques semaines, à des affiches qui représentaient des étrons. Il y avait des affiches avec une photo d'étrons de chien. Au motif que l'étron de chien était quelque chose de dégoûtant qui ne devait pas être sur les trottoirs, on nous collait des affiches avec une photographie en couleur d'un étrange chien. Bon, moi, je veux bien, déjà. Oui. Maintenant, la mode, c'est que pour que votre quartier soit propre, on vous colle des affiches avec des poubelles renversées. Donc ces mecs sont réellement des malades mentaux, il n'y a pas d'autre explication.
Mais ils payent des logos formidables.
Ça, ça va coûter des
formes. Le dessinateur qui fait la poubelle renversée, peut-être qu'il touche 3 millions, je ne sais pas, c'est une firme de publicité, vous savez, tout ça, c'est horrible. c'est horrible. Ouais. Et alors je dis, ils ne réforment pas, alors ça, tout le monde le sait, ils vous disent une réforme des retraites, c'est pas vrai, ils ont chargé la barque des retraites, ils vous disent on réforme l'assurance maladie, c'est pas vrai du tout. Ils ont lancé une énorme parlotte sur l'école, comme vous savez, la parlotte Tello. Et tous les sujets qui fâchaient, comme l'apprentissage de la lecture, les libertés de l'enseignement, bien entendu, personne ne pouvait ne pouvait toucher à la pyramide et au mammouth. Donc la parlotte a duré un an avec des petites fêtes. Là, c'était peut-être pas des grandes fêtes, mais enfin bon. Mais ça n'a servi absolument à rien. Donc c'est un espèce de petit nuage. Et tout le temps. Là, récemment, il y a eu un phénomène absolument formidable. Il y a eu le rapport Camp Dessus, qui a été commandé par Sarkozy. Comment faire sauter les freins de la croissance? Mais tout le monde sait comment il faut faire sauter les freins de la croissance. Bon, alors je dis, au fond, Sarkozy n'était pas informé, donc ce rapport, ça le forme. Donc il a eu son petit stage de formation, et je dis, Sarkozy aurait dû tout de suite sauter dans sa vedette qu'il attend là au bas de Bercy, aller porter à son chef Chirac le rapport, ils seraient tous les deux informés, c'était formidable, donc la parlotte langue grande sud aurait essayé. Pas du tout. Chirac a commandé une deuxième parlotte qui confie à Jean-Louis Beffa, président de Saint-Gobain. Donc les deux parlottes s'enchaînent, et ça, bien évidemment, c'est la guerre des chefs.
Il y a d'ailleurs, voilà. Ce que vous dites appelle un autre commentaire qui rejoint quelque chose qui a été dit tout à l'heure, à propos de Sarkozy d'ailleurs. C'est que ce monsieur qui est président de Saint-Gobain, moi je ne suis pas président de Saint-Gobain, je suis simplement directeur d'un tout petit journal. Si on me demandait de rédiger un rapport, je serais absolument un foutu de le faire. D'abord parce que je suis un foutu de le faire intellectuellement, mais je n'aurais même pas le temps. Alors comment font ces gens-là? Comment fait le directeur de Saint-Gobain, le grand patron de Saint-Gobain, pour trouver le temps de faire un rapport, c'est-à-dire de faire une enquête, d'en tirer les conclusions, de réfléchir, de rédiger, de corriger? Donc c'est une imposture, c'est pas lui qui le fait, tout le monde a compris. Alors il a des loufias qui font ce boulot-là, qui le font plus ou moins bien, mais ça n'a donc pas de sens de dire qu'on a donc pas besoin de ça pour ça, d'un monsieur qui par ailleurs est directeur de Saint-Gobain. On pourrait confier ça à un fonctionnaire qui n'a rien à foutre. Absolument. Ça ne doit pas être difficile à trouver.
Absolument. Et d'autant plus que tout le monde sait ce qu'il faut faire pour établir l'école.
Ben, oui.
Tout le monde le sait, mais il y a des hommes politiques qui ne veulent pas le faire. Et dans ce que vous dites, il y a quelque chose de très important, parce que pourquoi Beffa joue son prestige là-dedans, et puis son propre temps tout de même, et puis le temps de ses collaborateurs? Et bien évidemment, c'est à cause de la connivence dans le système socialiste qui existe entre les grandes firmes et l'État. Donc Beffa, ça favorise ses contacts, ça favorise ses marchés, peut-être ça favorise sa boutonnière, s'il a besoin de quelques roses de plus sur sa boutonnière. Et voilà, ça l'accroche au système également, et les grandes firmes sont très accrochées au système comme ça. Hein.
Alors c'est donc ça, c'est un autre aspect de ce livre, parce que je l'ai présenté au début un peu comme un livre de petites choses pittoresques et tout, mais c'est pas ça seulement. Il y a dans ce bouquin une dimension extrêmement sérieuse et extrêmement grave.
Oui, et alors ça s'exprime dans les...
Sur les dysfonctionnements de...
C'est ça, ça s'exprime dans les principes que j'ai mis en tête de chaque chapitre, parce que toutes ces opérations de ruine sont des opérations de ruine, reposent sur des principes qui tous aboutissent d'ailleurs à l'enrichissement des hommes de l'État. Oui. Tout à l'heure, dans votre énumération, vous n'avez pas... Vous y avez pensé certainement, vous ne l'avez pas dit, il y a les chefs syndicalistes aussi.
Ah oui, qui font partie de du gang,
qui font partie. Et alors il y a des principes théoriques qui sont pas drôles que je donne. En fait, c'est un livre, je crois, théorique, mais
illustré par des exemples,
exemples plaisants. Des exemples plaisants.
Merci beaucoup, Michel de Ponsard. Alors, ce livre est paru chez François-Xavier de Guibert. Il s'appelle Parlotte et Fête. Il y a un sous-titre qui est un peu long.
Divertissement pour accompagner le désastre français.
Voilà. Et alors, vous le signerez le 6 décembre de 15h à 18h chez Marie-Thérèse de Mézary à la librairie Guettier, 66 avenue Théophile Gautier, 75-07 Paris, juste en face de l'église, enfin pratiquement en face de l'église d'Auteuil,
oui, oui.
Tout près d'ici. Marie-Thérèse de Mézary, c'était l'ancienne librairie à laquelle tout le monde se précipitait quand c'était place Notre-Dame des Victoires.
C'est ça. Et elle a une deuxième librairie, hein, que je ne connais pas, mais enfin samedi, je serai à la librairie Guettier.
La librairie Guettier, 66 avenue Théophile Gautier, samedi 6 décembre, 15h à 18h, vous retrouverez Michel de Ponsin. Vous pourrez acheter son livre, puis les autres.
Les autres aussi, sont là.
Ça n'est pas le premier livre que vous publiez, ils s'en foutent beaucoup. Alors j'ai appris, bon, on ne va peut-être pas livrer un grand secret, mais que vous vous êtes intéressé aussi il se pourrait que vous soyez intéressé par un journal qui vient de paraître, un trimestriel qui vient de paraître, et qui s'appelle Le Cri du Contribuable, que j'ai regardé, et qui est absolument remarquable.
Tout à fait remarquable.
C'est nos amis
Contribuables
associés qui font ça. On en a parlé beaucoup sur cette radio déjà, mais là, c'est un livre qui manquait, et un journal qui manquait. Et quand je l'ai lu, j'ai téléphoné à Michel Dupont en disant, j'étais quand même étonné de ne pas trouver votre signature dehors, parce que c'est exactement le même esprit. C'est la dénonciation des incroyables abus. Écoutez, si on avait fait ça, si les gens du pouvoir avaient fait ça sous l'Ancien Régime, mais la révolution aurait eu lieu au XIVe siècle.
Ah oui, oui, oui. Enfin,
c'est incroyable. On est dans un régime de gangsters purement et simplement.
Absolument.
De gangsters dangereux, en plus, qui nous ruinent. Et quand ces gens-là osent dire que la monarchie a coûté cher aux Français, mais ils se foutent du monde. Je publie dans le Libre Journal là, un mot de comment s'appelle-t-il cet excellent garçon qui est un spécialiste de ces questions, un historien, je ne vais pas le retrouver bien sûr. Et si voilà, c'est Emmanuel Leroy Ladurie qui dit « La France reste un pays où, en 2004, le pourcentage des avortements, 220 000 par an, a égalé le taux de mortalité des bébés âgés de moins d'un an au temps de Louis XIV. Peut-on vraiment parler de progrès ?» Bon, ça c'est un exemple, mais il y a 1000 autres exemples du fait que la monarchie était un régime qui était infiniment supérieur à cette république de voyous dont nous crevons depuis deux siècles.
Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, ce que je signale dans tous mes livres, c'est que l'essentiel du vol, c'est un vol légal, c'est-à-dire il fabrique la loi.
Bah oui.
Voilà. Par exemple, il y a un ancien ministre, c'est très malheureux, le pauvre, il a perdu son ministère. Bon, eh bien, le gouvernement vient de créer spécialement une fonction pour lui, et c'est même tellement drôle comme fonction, ambassadeur en mission pour la prévention des conflits. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller là où on se bat au Soudan, écarter les bras et dire ne vous battez pas. Eh bien, ça, c'est parfaitement légal. La nomination est légale et probablement le bénéfice mensuel est de 100 ou 150 000 francs avec des voyages.
Ah, bah,
puis,
évidemment,
il n'ira pas au Soudan, il ira plutôt à New York.
Et encore, s'il emmène Bobonne, ça va. Parce que maintenant, c'est Bobonne. On emmène Bobonne. Chirac, s'il ne déplace pas, ça.
Alors, c'est légal.
C'est Luc Ferry, si je me trompe pas.
Eh bien, je crois, voilà, je cherchais le.
C'est Luc Ferry, donc il emmènera madame, ça, c'est sûr.
Alors,
non, mais c'est le vol légal, puisque c'est couvert par la loi. Donc
c'est le vol en première, là, carrément.
Bien, merci beaucoup, Michel de Ronsard.
Qu'est-ce que vous venez d'annoncer pour le 6 décembre?
La signature de Michel de Ponsin.
Eh bien non, c'est le 6 novembre.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Ah oui, 6 décembre. Novembre,
j'ai pas bien sûr. Parce que j'étais obsédé par le 11 décembre.
Je m'excuse.
Veille de mon anniversaire où nous serons à Riomont.
Un donc là, c'est auditeur attentif novembre. Qui vous le fait
donc c'est bien le 6 novembre. Alors,
heureusement que les auditeurs sont attentifs parce que s'il fallait compter sur moi.
Ils ont déjà noté que c'était votre anniversaire.
Oui.
Vous allez crouler sous les dons.
Oui, j'imagine. Alors, comme j'ai cité le cri du contribuable, que je vous invite à acheter et à lire, c'est un trimestriel, je peux lui faire de la pub sans crainte, puisqu'il paraît autant de fois par année que moi par mois, donc on est tranquille. Donc l'adresse, naturellement, ça, vous savez...
C'est 42 rue des Jeuneurs.
Voilà, c'est ça.
75-0...
Jeuneurs, 75-02,
je crois.
02.
Voilà. Voilà. 42 rue des Jeuneurs, 42 rue des Jeuneurs, 75-002, Paris. Le téléphone, c'est 01 42... Oula, 21, 16, 24, non, je dis oula, parce que je deviens de plus en plus miro. Et on va en parler d'ailleurs avec le docteur Portelet dans pas longtemps. Le truc internet, c'est www.contribuable.net. Voilà.
Et il y a un prix?
Oui, il vaut 3,50 €. Et vraiment, c'est dérisoire, eu égard à la quantité d'informations qu'il y a là-dedans. Je suis admiratif.
Serge.
Oui, oui, Vinnie.
On parle de l'Internet. Alors, ceux qui veulent écouter Michel de penser un plus
souvent,
par exemple, tous les jours, par les nouvelles politiques, n'est-ce pas? Ils ont qu'à cliquer sur le bouton, c'est-à-dire sur radio-silence.org, où Michel fait les politiques, les religieuses. Non, fait les nouvelles politiques tous les jours. Moi, je fais les nouvelles religieuses le week-end.
Radio-silence.org. Ça, voilà. C'est Radio-Silence, à laquelle j'ai collaboré dans ses tout débuts.
C'est ça.
Puis j'ai arrêté vite parce que, d'abord, j'avais pas le temps. Moi, j'ai pas le temps de rédiger des rapports, donc j'ai pas beaucoup le temps de faire autre chose que.
Mais surtout. Pour garder que... l'esprit, hein.
Oui, c'est bien. Non, mais c'est. Surtout parce que j'aurais fini par vous envoyer tous en prison. C'était pas une bonne idée. Merci. Alors, oui, toi, Vinnie, tu n'es pas allé en prison, tu es allé en Géorgie, là.
Oui, j'ai échappé, on était en Géorgie. Alors, regardez ce que j'ai dit, peut-être ce que vous voyez, parce que les...
Ah, c'est un magnifique drapeau. Ça, on dirait un... Ah, c'est beau, c'est un drapeau, donc à croix, un drapeau blanc, avec une immense croix rouge qui coupe le drapeau en quatre parties, et chacune des quatre parties blanches est porteuse d'une croix de Malte rouge.
Voilà, c'est ça ce qui remplace le marteau et la faucille en Géorgie.
On peut dire que l'esthétique générale du projet y a gagné quand même.
Moi je dirais ce drapeau-là, c'est un soufflet pour toute l'Union européenne.
Ouais.
Avec sa trouille de mentionner le mot même chrétien. Et eux, on ne peut pas être plus chrétien dans un programme comme ce drapeau. D'ailleurs, ils nous l'ont dit. Ils ont dit, nous vous considérons, vous, nos frères chrétiens, comme des dégénérés. C'était ça le dialogue. On n'a pas fait le dialogue.
Ça va les voir.
Comme certains cardinaux qui se baladent là-bas, même le Saint-Père. On a vraiment fait le dialogue. Et le premier jour, on a déjà été reçu par le patriarche.
Il y a deux. Vous étiez 22, hein?
Patriarche orthodoxe. Hein.
Vous étiez 22.
Oui, on était 22. Et il nous a dit, qu'est-ce que vous êtes cherché ici? Et j'ai dit, on cherche les lieux des sources de notre foi. Un peu comme les rois mages, mais à l'inverse, de l'ouest vers l'est. Puisque vous avez vaincu le communisme, peut-être vous pourrez nous apprendre comment vaincre le libéralisme, dont on est loin d'être sorti. Alors, on lui a expliqué toute cette histoire de la constitution européenne. Il était ahuri. Alors, lui, il a répondu tout de suite. Il a dit, il n'y a qu'un remède, je vous le livre là, il n'y a qu'un remède, prier et la famille.
Oui.
Bon, faut méditer là-dessus. Il a dit ça. Hein. Ensuite, on a fait donc le tour du pays, 600 kilomètres sur des chemins impossibles. D'ailleurs, un autobus roule pas là-bas. Il faut prendre des minibus. Et pour pas faire une caravane, on s'est limité à 22 personnes. Hein. Donc, on était deux minibus. Et on est allé de l'est à l'ouest jusqu'à Zoubdidi. Et c'est une terre. C'est là vraiment la terre de culture de Géorgie. Zoubdidi, c'est l'ouest. Qui frôle la mer Noire et avec la capitale Zoubdidi, oui, qui était pendant 12 siècles la capitale aussi.
Zoubdidi, ça s'écrit Z-O-U-G-D-I-D-I.
Voilà, Zoubdidi. Voilà.
J'essaye de simplifier ce que je viens de dire, c'est raté. Hein.
Zoubdidi.
Z-O-U-G-D-I-D-I.
Ouais.
Voilà.
C'est bon. Bon, au parcours, on a vu, alors déjà le premier jour, à Metzkari, on a vu trois églises du 4e siècle. Vous voyez, ils se sont convertis au christianisme 160 ans avant Clovis. Alors, fille, elle est une église. Eux, ils sont peut-être le fils aîné de l'Église. Je ne sais pas si ce titre existe. Il faut quand même ajouter que 16 ans avant, Déjà, les Arméniens, c'était en tant qu'État converti au christianisme. Mmh. Mais ça, c'est les
et
deux,
le plus ancien,
deux
c'est
pays
les
phares qui sont convertis. Et jamais ils ont abandonné le christianisme. Il faut quand même savoir que ce pays, il est entouré de l'islam. Hein. Je dis juste les sept pays, Turquie, Azerbaïdjan, Daghestan, Tchétchénie, Ingouchie, Balkarie et Tcherkessie. Il n'y a que l'Ossétie qui est orthodoxe.
Du Nord.
Il faut le savoir.
Du
le
Nord,
nord aussi.
Du sud,
le Nord et le Sud sont
orthodoxes. Sud très islamisé maintenant.
Le Sud, oui. Il se collecte un peu là parce que c'est le plus proche avec l'armée russe qui patrouille quand même dans l'Ossétie du Sud aussi. Et puis, il y a l'Arménie à côté aussi, naturellement. Oui. Ces deux pays. Mais c'est comme un coin dans l'islam qui tient depuis 17 siècles. Quelque chose d'extraordinaire. Donc nous, on pensait un peu aller aux sources. Et alors, on a vu une véritable renaissance catholique, renaissance chrétienne, je veux dire. Le deuxième jour, on a participé à Mtsreta à la fête de la cathédrale. C'est l'ancienne capitale, à 15 km au nord de Tbilissi, et où se trouve la Sainte Tunique de Géorgie.
Alors justement, je voulais t'en parler de ça, parce que toi, tu es un spécialiste de la tunique d'Argenteuil.
Oui, c'était un peu la raison pourquoi on est allé. C'était le premier motif pourquoi on a programmé ce voyage il y a 4 ans déjà. Et puis finalement, on l'a réalisé maintenant. Il est vrai qu'il y a une Sainte Tunique de notre Seigneur Jésus-Christ, selon au moins l'histoire, la tradition et les documents, mais pas suivant des preuves scientifiques, qui serait partie là-bas pendant les premiers 7 siècles, donc avant la nôtre qui est arrivée 800 à Argenteuil, sous Charlemagne. Hein. Donc eux, ils auraient donc hérité d'une sainte tunique, mais on ne sait rien de cette tunique. Elle est sous ils appellent ça la colonne suspendue, dans la cathédrale, on l'a vu cette colonne, mais on ne peut pas toucher, c'est un véritable verrou en pierre contre tous les saboteurs, fouilleurs et autres brigands, peut-être même les nôtres d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle est à l'abri, et les gens, il vénère. Alors, ce jour-là, j'ai rarement vu une foule pareille. Pour rien que pour sortir le mouchoir de la poche, c'était impossible. Vous étiez un bloc de fidèles dans l'église, et puis 4 heures de liturgie. Que ces chants magnifiques, byzantins, faits par les saints, et des fidèles jeunes, énormément de jeunes, qui dans un silence incroyable suivaient tout ça, sans bouger, enfin on bougeait tous ensemble, s'il y avait un mouvement, tout le bloc bougeait, c'était comme ça. De temps en temps on peut d'ailleurs aller dehors, se reposer un tout petit peu, et alors ça fait un tout petit mouvement, ça dure un quart d'heure rien que pour sortir, et partout aussi un archevêque ou un évêque sort comme ça. C'était vraiment autre chose, mais on était vraiment très impressionnés par cette religiosité. Et on l'a vu dans tout le pays. Il y a presque 100 églises en construction ou en reconstruction dans ce pays. Dans un pays, je rappelle, qui est au seuil de la pauvreté. Dans certaines provinces, c'est 60% de la population au-dessous du seuil de la pauvreté. Vous voyez, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, à certains moments, même à Tbilissi. On était à l'hôtel coupé, surtout le matin quand tout le monde tire, il n'y a pas d'eau. L'électricité, bon, il y a des coûts, alors les ordinateurs, tout ça, on ne peut pas utiliser. Il y a des pointes, vous savez, d'électricité qui cassent l'ordinateur. Enfin, tout est très compliqué. Mais les gens sont pas malheureux, faut dire. On se sentait même un peu plus là-bas, chez nous, que ici, chez nous. Franchement.
Je peux, Michel, vous poser une question, parce que vous dites qu'ils ont gardé la foi. Or, il y a un célèbre et abominable géorgien qui a régné sur la Russie, et donc ça veut dire qu'il les a laissés un peu tranquilles, ses compatriotes.
Au moins, il les a laissés intacts. Staline, dont on a frôlé sa maison là à Gobi, c'est sur le parcours entre Tbilissi et Zoubdidi. Non, vous savez tout. Sa mère est enterrée là-bas. On a vu donc le tombeau de la mère de Staline, un tombeau chrétien, n'est-ce pas? Et lui-même, je crois qu'il doit être à Moscou, je ne sais pas où il est.
Oui,
il a laissé la Géorgie intacte. Par contre, il a complètement déstabilisé les pays tout de suite au-dessus, entre la Russie et Géorgie. Mais tellement déstabilisé qu'aujourd'hui, il y a la guerre entre ces pays-là. Comme vous l'avez avait vu les événements de Besran, etc. C'était à 30 kilomètres là où on avait passé. Alors, cette pauvreté, alors on est tombé sur quelqu'un formidable, il faut quand même que j'en parle, c'est la princesse Murat. C'est peut-être le c'est peut-être l'endroit d'où on parlait, à Radio Courtoisie, n'est-ce pas? C'est pas la race.
Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on parle de la princesse Murat. Je ne sais pas ce qu'on pense le marquis, mais on va demander au marquis, je parlais.
Voilà. Alors, est là depuis 7 ans, et elle fait un travail alors absolument formidable. Elle a fait avec rien une école franco-géorgienne, 120 écoliers, on l'a vu. Elle a fait une œuvre enfant de Géorgie où elle aide ses réfugiés d'Abkhazie. Alors l'Abkhazie, c'est une province occupée par les Russes, tout à fait à l'ouest du pays. C'était il y a 10 ans une guerre civile, 100 000 morts géorgiens, 110 000 chassés de leur propre terre, et ils attendent tous le long de la frontière, et on les a visités, ces camps-là. Ils attendent le retour impossible, parce que pour l'instant, il n'y a aucune solution en vue pour ça. Alors, elle a en plus fait récemment, en coopération d'ailleurs avec nous, une maison SOS Maman, qui s'appelle là-bas Maison Verte, pour accueillir les mamans, les jeunes filles en difficulté à cause de leur grossesse, pour les aider à accueillir leur enfant. Ils font des crêpes là-bas pour aider les femmes à s'occuper, à se faire un peu d'argent, et elle donne aussi des cours le soir pour les pauvres, pour le français.
Comment elle est partie là-bas?
Pardon?
Pourquoi est-elle partie là-bas?
Pourquoi elle est partie là-bas? Je ne sais pas. Heureusement, il y a des Français qui bougent à l'étranger, n'est-ce pas? Oui, ça serait bien si elle faisait le même travail ici.
Alors, elle a créé, c'est une association qui s'appelle Enfants de Géorgie.
Alors, elle nous a demandé, alors, je transmets deux demandes d'elle, parce que je crois que c'est vraiment très bien trouvé. Elle dit, tous ces petits Géorgiens, les étudiants, ils veulent tous venir en France. On connaît la musique, on l'a vu avec l'Ukraine, la Russie. Tout le monde veut venir en France, avec la Lituanie, et rester en France. Alors, elle dit, il faut, j'en ai marre des intellectuels, elle a dit. J'en ai marre des études d'intello. Je voudrais des boulangers, je voudrais des tapissiers, je voudrais des jardiniers, des agriculteurs. Alors, trouvez-moi en France, si possible, des stages de 2 mois, gratuits. Eux, ils payent l'avion, mais le stage lui-même gratuit, pour apprendre, pour assister, apprendre, voir comment ça fonctionne en France, même thalassothérapie, des choses, mais quelque chose pratique qu'on peut après réaliser. Mais pas 3 mois, elle dit, parce que sinon mes jeunes filles tombent amoureuses et là elles reviennent jamais après. Elle est très sage de ce côté-là. Et le deuxième appel.
Donc ça, il faut demander. On passe le message à Benjamin Guillemin, qui est, en tant que animateur, directeur du journal des artisans, il va pouvoir trouver.
Oui, et déjà Pactum m'a fait un email. Là, ils veulent nous aider aussi. Je crois que c'est une proposition vraiment réaliste et faisable. Et j'ai déjà trouvé des hôteliers aussi qui acceptent, etc. On verra ça. Et puis la deuxième demande, important aussi, un échographe. Parce qu'elle a trouvé un échographe là pour aider les jeunes filles quand elles voient la moindre chose où l'on peut leur dire ça, c'est le nouvel enfant. Alors, c'est gagné. Quand c'est bien encadré, il faut faire attention. Parce que...
Toi, tu es partisan de l'échographie comme outil de lutte contre l'avortement.
Oui, oui, oui. Nous, on le fait un peu ici à Paris. Quand il y a certaines filles qui doutent trop, on paye pour 53 euros une échographie. Mais il faut que ça soit bien encadré. Parce que si c'est des assistantes sociales qui le font, ils disent, oui, c'est rien du tout, on peut l'enlever. Hein? Tout dépend comment on présente l'échographie.
Je comprends mieux pourquoi, depuis quelque temps, il y a une espèce de campagne contre l'échographie. Qui s'abrite sous des prétextes médicaux. On dit c'est dangereux, l'échographie. Oui,
dans le film Genesis, au milieu de la vie des petites bêtes qui se reproduisent, il y a une échographie, ça a été prêté, enfin ils le disent dans le générique, c'est absolument bouleversant. C'est extraordinaire.
Mais la chose plus bouleversante que j'ai vue récemment, ça c'est une photo dont je voulais parler, c'est une photographie d'un petit garçon qui s'appelle Samuel Armas, qui a été prise au moment où il était atteint de spina bifida, c'est-à-dire d'une une malformation de l'épine dorsale. Ça a été identifié à l'examen échographique, je pense, et le médecin a décidé de faire une intervention. Donc il a fait une intervention en ouvrant l'utérus de la maman, et il a opéré à l'intérieur de l'utérus l'enfant, il a réparé la spina bifida. Et alors, il y a une photographie qui a été prise par un photographe américain qui s'appelle Michael Collins, qui travaillait pour USA Today, qui est un document, tu l'as pas vu ça, hein, qui est prodigieux. C'est Rémi Bert qui m'a envoyé ça. Donc on voit l'orifice, le trou qui a été fait par le médecin dans le ventre, dans l'utérus, ouais. Et la main du bébé sort et a empoigné le doigt du chirurgien.
Cette photo, oui.
C'est stupéfiant. Ouais. Et alors, donc j'ai fait une petite enquête pour savoir à quoi ça avait abouti. Et il y a une lettre, j'ai trouvé une lettre des parents qui ont envoyé ça, parce qu'à la suite de cette photo, ils ont reçu des milliers de lettres du monde entier pour leur dire, bon, on veut savoir ce qui est devenu Samuel. Et ils répondent, les parents répondent en disant, Samuel a maintenant, à l'époque, il avait 3 mois, les médecins l'ont examiné, il est très bien, il marchera, c'est un enfant sauvé, quoi. Mais cette photo de cette toute petite main, vous l'avez vu, docteur Portalaise? C'est un document prodigieux, vraiment. On voit cette toute petite main qui est minuscule, qui sort par le trou et qui attrape le doigt du chirurgien, c'est bouleversant.
Enfin, ces échographes en France, il faut se méfier. Maintenant, tous les hôpitaux sont équipés de ces échographes qui, au début, étaient très chers, mais maintenant, c'est des prix abordables, donc ils les ont tous. Mais dès que c'est des avorteurs, je me méfie terriblement. Il suffit la moindre déformation et crac, on dit, écoutez, vous voyez bien, vous allez quand même pas, etc. Et voilà, c'est cuit. Mais il faut que ça soit dans les mains chrétiens. Mais là, ça peut être vraiment un magnifique outil. Donc, je répercute cet appel-là.
Alors donc, nous répercutons l'appel de la princesse Murat, qui cherche un appareil d'échographie d'occasion pour sa maison verte, qui s'occupe d'accueillir des jeunes mamans géorgiennes, et puis qui cherche aussi des stages de travaux manuels, jardiniers, cuisiniers, bouchers, maçons, francs, ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'on pourra envoyer chez le père Argouache quelques géorgiens qui participeront à la construction d'une église catholique.
Pour voir ce que c'est, une école.
Une église catholique,
n'est-ce pas?
Voilà. Oui. L'UNEC, tu nous donnes l'adresse à laquelle on peut t'envoyer.
Alors, UNEC, boîte postale 70114. 70114, dans le Val d'Oise, 95-210 Saint-Gratien. 95-210 Saint-Gratien.
Une petite
conclusion, je suis quand même très encouragé en revenant. Parce que si après 80 ans de athéisme militant, de transformation des églises en musées athées, n'est-ce pas, comme ça s'est passé avec les staliniens en Géorgie, si après ça, soudainement, tout l'Église prend un essor pareil, eh bien, tout est peut-être pas perdu en France non plus.
Oui, à condition qu'on crève de faim pendant 70 ans quand même, parce que c'est la base. Hein.
Non, ça c'est l'autre.
Et à condition que les enfants têtent tout ça à la mamelle aussi, parce qu'en Russie, c'est quand même, même sous Staline, les mamans qui allaitaient leurs enfants
ont
fait transmettre quelque chose.
Absolument.
Alors, c'est voilà le problème.
Merci, Vigny. Merci de venir nous raconter de temps en temps tes aventures de Tintin de la charité à travers le monde, parce que c'est là, Tintin de la charité, le globe-trotteur de la charité.
On va y aller de nouveau l'année prochaine à Pâques orthodoxe, je crois c'est le 10 ou 11 avril, et on veut faire un convoi de voitures à donner. Alors on a déjà une 4x4 et une 2 chevaux. La 4x4 c'est celle de l'UNEC, on va la sacrifier parce que il faut se priver, il faut pas seulement donner ce qui est de surplus. Hein. Donc on en a 2, et il y a déjà un curé qui s'est manifesté, il veut venir avec sa Mercedes fourgue pour mettre des vêtements. Donc on va faire carrément un convoi.
Et vous laissez
ça sera pas
là-bas.
Un pèlerinage. Et on va prendre cette fois-ci le bateau de Roumanie directement vers la Géorgie. Donc ça va être un truc de 8 jours et puis l'avion de retour. Hein. Pas trop long.
Très bien. Bah, si vous avez une automobile à pétrole dont vous voulez vous débarrasser et que vous préférez que l'épave soit en Géorgie, vous vous adressez à l'UNEC. Vinnie Vermeulen sera content.
Avec plaisir.
Merci Vinnie. À bientôt. Docteur Portalet, bonjour. Vous êtes déjà venu dans cette émission, je l'ai déjà reçu pour un livre précédent. Et là, vous publiez un livre qui s'appelle Le corps, à ses raisons que la médecine ignore, aux éditions du Dauphin. Alors, qui est exactement le livre dont on pouvait rêver en ce moment, parce que on parle beaucoup de l'influence de la nourriture, de l'alimentation sur la santé quotidienne. Mais tout c'est confus, on ne sait pas très bien qui fait quoi, quels sont les effets de tel ou tel produit. Et là, vous apportez chapitre par chapitre des informations qui sont tout à fait intéressantes et alors tout à fait étonnantes. J'ai par exemple découvert que l'alimentation pouvait avoir des effets sur la vision.
Bien sûr. Et les conseils alimentaires qui malheureusement sont donnés par la médecine actuellement jouent un rôle néfaste. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cataractes, de glaucome chez des gens jeunes, alors que chez nos parents, c'était très tardif. Mais nos parents avaient un avantage, c'est qu'ils avaient moins de techniques sur le plan diététique. Et actuellement, on fait des produits allégés qui sont bien tolérés apparemment sur le plan digestif, sans signes désagréables. Et malheureusement, on enlève un garde-fou. Avant, en vieillissant, les gens avaient un problème de colite automatique. Et donc, petit à petit, ils supportaient de moins en moins un lait normal. Et comme il n'y avait pas de lait allégé, eh bien, ils disaient « mon foie ne le supporte pas ». Donc ils arrêtaient d'en prendre. Les fromages, c'était pareil. Ils commençaient par le camembert coulant pour arriver au camembert plus ferme. Ensuite, ils diminuaient les rations. Et puis, ils s'arrêtaient en disant « mon foie ne le supporte pas ». C'était une protection naturelle.
Alors vous êtes de ceux qui, de plus en plus nombreux d'ailleurs, considèrent que les laitages et les produits dérivés sont nocifs pour l'organisme adulte.
Alors, oui, pas que pour l'organisme adulte. C'est-à-dire que vous avez vu cette recherche, ces 40 années qui est impossible de résumer si on n'a pas lu le livre. Et automatiquement, je me suis rendu compte, il y a maintenant 22 ans, des effets nocifs des produits lactés et fromagés.
C'est-à-dire que ce qu'on voit en ce moment, il suffit d'aller dans un supermarché, on remarque ça souvent d'ailleurs avec le docteur Plantet, on est littéralement abasourdi de voir les kilomètres de rayons.
Oui.
On peut dire que pratiquement le tiers d'un rayon alimentaire d'une grande surface est consacré à vendre des produits laitiers dérivés.
Alors, c'est effrayant. Effectivement, il y a des gros intérêts financiers. Quand mon premier livre est sorti en 92, eh bien, effectivement, on est venu m'inviter à dîner, un grand trust que je ne citerai pas, deux fois, pour que je ne sorte pas mon livre. Et naturellement, je dérangeais beaucoup ce trust, parce que ce sont des milliards de bénéfices. Moi, je leur ai proposé, en découvrant ce qu'il y avait d'éléments nocifs dans le lait, de pouvoir faire des produits allégés. Mais ça ne m'a pas donné suite. Pourquoi ? Parce que le corps médical ne s'intéressait pas à ça. Au contraire, mes idées les dérangent. Mais surtout, je pense, parce qu'ils n'ont pas lu ce livre.
Avant, ce que j'aurais que vous nous disiez, parce que c'est assez confus cette histoire. C'est-à-dire que, on dit le lait, les laitages sont assimilables jusqu'à un certain âge, puis plus après. Ensuite, certains disent les laitages sont tout le temps dangereux. D'autres disent les laitages, quels qu'ils soient, traités ou non traités, sont dangereux. Certains disent les laitages sont dangereux aujourd'hui parce qu'ils subissent les ultra hautes températures et qu'ils sont tirés d'animaux qui ont été soignés avec des antibiotiques, ce qui les rend nocifs, etc. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement ?
Alors,
qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais dans
effectivement,
les
laitages ? Tout ce que vous citez est valable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, personne n'a fait cette recherche, vous avez bien compris en lisant mon livre, que personne n'a fait cette recherche. Moi, je me suis toujours intéressé à savoir pourquoi, si vous voulez, ce lait peut être nocif alors que l'enfant tète, enfin, etc. Donc, tout, des tas d'arguments qu'on vous cite l'allaitement. Et je me suis rendu compte d'une chose, il n'y a pas que pour le lait d'ailleurs, vous verrez pour les jus de fruits, pour les choses sucrées, c'est que lorsque vous ingérez un aliment, automatiquement votre corps va fabriquer un produit pour que cet aliment soit détruit jusqu'à l'échelon cellulaire et rentre dans votre organisme
assimilé.
Et malheureusement, si quelqu'un vous mange, eh bien, on va fabriquer un produit identique qui va vous détruire en 6 à 8 heures, si vous voulez, jusqu'à l'échelon cellulaire. Et les tripes, ça se mange. Et alors, je me suis rendu compte que plus un aliment est liquide, et plus vite vous allez fabriquer ce liquide. C'est pour ça que le lait, pourquoi l'arrête-t-on quand un enfant a la diarrhée ? ça paraît illogique. Il y a des tas d'éléments qui sont favorables. Mais par contre, avec ce lait qui est liquide, va sortir très vite de votre estomac, et là, vous allez fabriquer le produit qu'attaque. Et si vous avez un intestin qui est fragilisé par une infection microbienne, automatiquement, ce produit va être hypersensible. Cet intestin va être hypersensible à ce produit et va déclencher un système de défense qui est la chasse du produit qui l'attaque. C'est-à-dire que l'aliment joue un rôle, mais pas direct. C'est toujours indirect par personne interposée. C'est
ça. Alors d'ailleurs, pour sortir du laitage, on va y revenir, mais vous, dans votre livre, vous donnez un exemple qui est parfaitement démonstratif de ce mode de fonctionnement, c'est l'exemple du melon.
Oui.
Et vous expliquez pourquoi nos anciens mangeaient le melon au dessert.
Oui.
Et que l'erreur que nous commettons, nous, c'est de plus en plus souvent de manger le melon à l'italienne, c'est-à-dire en entrée.
Oui, mais attention, à l'italienne, vous avez les antipasti, c'est-à-dire qu'ils mangent des choses avant. Ils ne mangent pas le melon tout de suite. Alors, bien sûr, ils n'ont pas tout. Hein, c'est-à-dire que, vous avez vu, j'explique un peu pourquoi on est passé de ce melon en dessert, hein, qu'on mangeait dans le sud. Moi, je suis du sud et on mangeait toujours le melon en dessert, parce qu'il est très sucré. Et effectivement, les melons qui arrivaient à Paris n'étaient pas sucrés, et les gens ne les mangeaient pas en dessert. Donc, tout ceci prouve, si vous voulez, qu'effectivement, c'est le même melon que vous mangez en entrée ou en dessert, mais le melon que vous mangez en entrée arrive dans un estomac vide. Le melon, c'est de l'eau et du sucre, et à ce moment-là, ça sort très vite, et c'est à ce moment-là que vous fabriquez le produit qui attaque. Si vous mangez le melon en dessert, automatiquement, vous le mélangez à tout le bol alimentaire, il va sortir plus lentement, et le liquide qui attaque va être aussi résorbé, plus ou moins, par le bol alimentaire qui l'a précédé. Et tout est là. C'est le même melon, c'est le même système digestif, mais l'agression est différente. Mmh. Et c'est ça ce que j'apporte. Et jusqu'à présent, la médecine est passée carrément à côté de cette agression.
Mais c'est-à-dire que on commence maintenant à aborder ces questions médicales avec un peu plus de hauteur de vue, enfin, en agrandissant le champ. Parce que souvent, pendant longtemps, on a considéré qu'un produit avait un effet. Point. Et puis ensuite, on s'est aperçu que l'effet, c'était quand même plus compliqué que ça. Il y avait l'organisme qui réagissait à un produit, lequel produit surréagissait à l'organisme, et ça finissait par avoir un effet, mais qui n'était pas lié simplement au produit, mais à un processus général. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a aussi des considérations de chronologie, de temps. C'est-à-dire qu'on peut manger certaines choses à certains moments et pas à d'autres, parce que les effets sont différents. Et puis on découvre aussi qu'il y a un effet de rapprochement. C'est-à-dire qu'on peut consommer certains produits en même temps que d'autres, et certains produits pas avec d'autres parce que ça présente un danger. Donc il y a une réflexion beaucoup plus poussée.
Mais vous avez vu que moi je suis arrivé tout à fait, presque par hasard, mais par logique, hein, à découvrir l'agression. Pour moi, c'est l'agression la plus fondamentale qui soit. C'est-à-dire que cette sécrétion dont je parle et qui est le fondement de ma théorie, eh bien, automatiquement, personne n'en a tenu compte. Alors, il y a donc toujours des explications qui paraissent logiques. On vous donnera toujours une raison qui peut être valable, mais dans une petite mesure. Et en réalité, la grosse mesure, c'est de tenir compte de ces sécrétions dangereuses, qui sont mortelles. Hein.
Et c'est... Alors, on va en parler juste après la pause technique, puisque je crois que le moment est venu de faire la pause technique. Donc, dans cette deuxième partie de l'entretien, on parlera donc de ce que vous venez d'évoquer, et puis on parlera, si vous le voulez, on abordera la question à travers certaines maladies, précisément, pour voir comment elles peuvent être exagérées, aggravées ou réduites par un contrôle de l'alimentation.
Merci, oui, je pense.
La parole dans quelques instants.
Merci.
Bien, alors, hors antenne, on était déjà réengagé dans la conversation avec le docteur Portalet. Il faut dire que c'est un sujet absolument passionnant, parce que c'est un sujet, ce sujet de l'alimentation, du rôle de l'alimentation, et spécialement des effets directs de l'alimentation sur l'organisme, et encore plus spécialement des effets des laitages et des produits dérivés sur... sur l'organisme et sur la santé, c'est passionnant parce que ça atteint des, comment dirais-je, ça a des conséquences qui sont absolument inimaginables. C'est-à-dire qu'on peut pas, quand on fait l'usage de sa propre réflexion, on ne peut pas une seule seconde imaginer que le fait de manger quelque chose va avoir des effets aussi directs sur un organe qui paraît complètement étranger aux questions alimentaires. Je citais tout à l'heure l'exemple de la presbytie, par exemple, qui est exagérée par certaines...
De la cataracte.
La cataracte, bien sûr, mais avec des effets sur... On peut réduire les problèmes de la vision en changeant son alimentation. Ouais. Et ça, c'est le fruit quand même de 40 années de boulot. C'est le deuxième ouvrage que vous consacrez à ça. Et vous avez eu les plus grandes difficultés lors de la sortie du premier ouvrage.
Beaucoup de mal.
À vous faire entendre, et vous faites toujours très mal entendre.
Très mal entendre, si oui, parce qu'on ne donne pas la parole comme vous le faites.
Hein. Parce que c'est vrai que le lobby des industries laitières, c'est quelque chose de phénoménal.
C'est le plus grand budget publicitaire des médias. Donc,
alors, je voudrais qu'on revienne maintenant au processus par lequel... le processus que vous avez mis en évidence comme générateur de troubles consécutifs à l'alimentation.
Alors, il y a deux processus. Il y a d'abord le processus de sécrétion bilio-pancréatique, ce que j'appelle, c'est-à-dire ce liquide qui est une véritable acide sulfurique que vous fabriquez pour détruire l'aliment jusqu'à l'échelon cellulaire. Et vous avez ensuite l'organe qui va garder ce liquide le plus longtemps, c'est le côlon. Et selon ce que vous mangez, vous allez envoyer plus ou moins de sécrétions intactes dans ce côlon. Et ce côlon, naturellement, va défendre votre vie. Le corps, ma recherche est allée vers l'organisation corporelle. Actuellement, ça va vers l'infiniment petit. Alors donc, il y a donc un rapport entre cette agression par ces sucs et ce côlon qui les reçoit. Et ce côlon, naturellement, ne peut pas vous dire « j'ai mal ». Il va donc déclencher des phénomènes digestifs désagréables pour que votre cerveau, qui est le bureau de réclamation, puisse retrouver qu'est-ce qui lui a provoqué cette agression. Alors là, naturellement, j'ai mis du temps, j'ai mis des années pour retrouver ça. Et c'est facile après à contrôler. Hein, vous avez vu pour le melon, puisque vous l'avez cité, c'est symptomatique. Vous avez vu, alors pour le liquide, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faut boire 1,5 litre de liquide par jour minimum, 2 litres, etc. Or, on a besoin d'un litre et demi de liquide si vous ne mangez pas. Si vous faites la diète, il faut boire 1,5 litre. Mais quelqu'un qui vous mange, par exemple, je reviens à mon expérience, vous avez 60% d'eau. Donc, s'il boit en plus, c'est énorme. Et ce qui est important, c'est que l'eau soit liée à l'aliment solide. Là, sans ça, l'eau va pénétrer très vite dans le sang et vous avez donc un sang qui va être dilué. Hein. J'ai des exemples incroyables que je pourrais encore faire au moins 2 autres livres, si vous voulez, là-dessus. Et en diluant le sang, eh bien, vous perturbez ces constantes sanguines. Donc, votre corps va déclencher des phénomènes de régulation. Il va vous faire uriner plus, il va faire sortir comme il peut ces produits agressifs, et c'est là où vous avez des agressions, non seulement du système digestif, mais en dehors du système digestif.
Alors, c'est-à-dire que quand on vous dit il faut pas boire pendant les repas, il faut boire en dehors des repas, c'est pratiquement un conseil criminel.
Ben, c'est un conseil criminel de dire qu'il faut boire beaucoup. Donc, mais le problème...
Là, c'est révolutionnaire ce que vous dites, parce que moi, j'ai toujours entendu dire il faut boire au moins 1,5 litre. Vous pouvez boire 3 litres, tant mieux.
Oui, j'ai appris, si vous voulez. Mais la plupart des services de néphrologie qui s'occupent de greffe des reins, etc., tous ces patients qui arrivent étaient des gens qui buvaient beaucoup, à qui on disait il faut boire beaucoup. J'ai depuis 22 ans les conseils alimentaires que je vais vous donner d'ailleurs, hein, qui sont dans ce livre, mais j'ai un petit tiré à part. Et depuis 22 ans, je n'ai pas de colique néphrétique, je n'ai pas d'infection urinaire et je n'ai pas d'insuffisance rénale. J'ai sur le plan cancer aussi les mêmes résultats. C'est pour ça que ce que je veux, moi, surtout, c'est que je ne peux pas vous démontrer tout mon livre ici, mais que le public puisse savoir que ce livre existe, qu'ils ont intérêt intérêt à le lire. Maintenant, ceux que ça intéresse, tant mieux. Ceux que ça n'intéresse pas, mais je pense pas, parce que là, je vois tous les lecteurs que j'ai m'envoient des lettres en disant c'est extraordinaire.
Ah, mais on va de surprise en surprise. Oui. Chaque page est une révélation. Oui. C'est pas possible. Bien on a toujours dit le contraire. Oui. Enfin, par exemple, je prends un exemple idiot, l'histoire de l'appendice. Oui. Le rôle de l'appendice. Oui. L'appendicite chronique.
Mais pour la médecine, ça n'existe pas.
Voilà.
Alors, vous savez pourquoi ? Parce que cet organe, pour la médecine, n'a aucune fonction digestive. Hein ? Donc, on va vous l'enlever quand il va éclater et vous tuer. Mmh. Et puis, le reste du temps, vous avez des troubles digestifs, ça vient jamais de là. Alors, en plus, cet organe ne fait jamais mal tout seul. C'est-à-dire que spontanément, il ne fait pas mal. C'est pour ça qu'on opère des gens en péritonite, alors que la péritonite met 2 mois pour arriver. Donc, alors qu'à la palpation du ventre, vous pouvez retrouver une douleur. Mon meilleur exemple, c'est moi. Je dis dans ce livre que vous avez lu que cet appendice est malade et la première diarrhée qu'on a dans sa vie, c'est la première infection intestinale. Que des microbes qui sont rentrés dans l'intestin vont pénétrer dans l'appendice, qui est un petit morceau de côlon droit, faire des lésions. Hein, des plaies, et ces plaies ne vont jamais cicatriser. Et à partir de ce moment-là, cet appendice va jouer un rôle, si vous voulez, qui n'est pas le sien. Et pour l'instant, il est le point de départ. C'est pas lui qui est important en soi, mais il va être un point de départ pathologique. Et en fonction de ce point de départ, les gens vont avoir une alimentation, ce que j'appelle de confort, qui est hyper agressive, jusqu'au jour où on va découvrir qu'ils font un cancer du côlon, alors que tout allait parfaitement bien, apparemment. Ça veut dire qu'on peut prévoir ces choses-là, qu'on peut les éviter. Et naturellement, le poids, la maigreur, et alors le lait joue un rôle majeur. Pourquoi la nature arrête l'allaitement à toutes les femelles du monde animal, alors que le bébé ou l'animal est petit? Si c'était une erreur, eh bien, la race s'éteint quand il y a une erreur. Vous comprenez ? Donc c'est tout ça, vous avez vu que je l'expliquais, parce que oui. Il fallait que répondre à mes propres questions, puisqu'on m'avait appris l'inverse.
Mais, c'est ça, il y a un travail de révolution personnelle dans ce livre.
Mais oui, je me suis remis en question constamment.
Il faut beaucoup de courage pour le faire. D'abord parce que rien n'est plus difficile que de se remettre en question soi-même. Mais dans votre activité, en plus, c'est matériellement dangereux, parce que vous risquez... On a vu quand même, c'est un truc qui me fascine toujours, c'est des médecins condamné pour exercice illégal de la médecine. Ça paraît aberrant, tu vois, parce qu'il n'appliquait pas les règles imposées par une espèce de Sanhédrin, on ne sait pas qui, il dit voilà, c'est comme ça, et vous n'avez pas le droit de soigner autrement. On parlait l'autre jour du docteur Masqui de Nice. Je signale que, parce qu'on a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont demandé les coordonnées du docteur Masqui à Nice, le docteur Masqui qui a élaboré une théorie, semble-t-il, très très fondée sur le développement de la sclérose en plaques, ils nous ont demandé ses coordonnées. Alors je donnais une information tout à fait extraordinaire. Elles sont dans l'annuaire. Voilà. Vous trouvez le docteur Masqui dans l'annuaire, et sur Minitel ou sur Internet. Donc maintenant vous pouvez appeler le Libre Journal si vous voulez pour avoir ses coordonnées, mais c'est public, quoi. C'est pas un lourd secret de famille. Eh bien, cet homme a été viré du Conseil de l'Ordre, et puis il a été réintégré avec des excuses quand il a pris sa retraite. Voilà. J'ai été plus dangereux pour personne.
Alors, pour échapper à ce que vous dites, j'ai tout contrôlé, tout vérifié pendant des années, parce que je savais bien qu'on m'attendait au tournant. Et donc, si on avait pu me descendre, et c'est quand même mon deuxième livre, le premier est sorti en 92, et ça c'est la suite qui reprend mes idées sans rien changer, donc si on avait pu me reprocher quelque chose, j'aurais des procès aussi bien par le Conseil de l'Ordre que par les avocats de mes patients.
Alors, on peut prendre quelques exemples, si vous voulez, de pathologie. Alors, il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est l'hypertension.
Oui.
Donc, vous avez travaillé sur cette question de la genèse de l'hypertension.
Voilà. Alors, j'ai travaillé sur cette question parce que je me suis rendu compte que lorsque les gens prennent beaucoup de produits lactés et fromagés, d'une part, ils font l'agression de ce système digestif qui, lui, va se défendre contre ces sécrétions, et les manœuvres qu'il fait, vous avez vu, sont très logiques. Donc, et quand il ferme, par exemple, le canal cholédoque, parce que pourquoi ce canal cholédoque a un muscle, le sphincter d'Oddi, au bout ? Enfin, jamais personne ne s'est posé la question. Or, lui va fermer ce sphincter. Quand il ferme ce sphincter, cette bile ne peut plus s'écouler. À ce moment-là, elle se répand dans le foie et vous avez aussi dans le pancréas. Le corps les récupère parce que il faut bien sauver le côlon, mais pas tuer le foie ou le pancréas. Et il récupère par voie sanguine et lymphatique. À ce moment-là, ces produits vont dans ces liquides qui sont vitaux, et le corps va les faire sortir le plus vite possible. Il va donc le faire sortir à des endroits, si vous voulez, notamment dans le système circulatoire. Et une fois que l'agression de ce système circulatoire est faite par ces enzymes, eh bien, le corps va essayer de cicatriser. C'est-à-dire qu'il va colmater. Il va le colmater avec le calcium. Et donc, dans les plaques d'athérome dont tout le monde vous parle, du cholestérol, oui, il y a toujours des calcifications et personne n'en tient compte. Hein, pourquoi? Et ce sont ces calcifications qui finalement, si vous voulez, vont durcir l'artère. Et comme l'artère est durcie, votre corps va augmenter la pression au niveau du cœur pour que ça circule. Votre corps, il faut qu'il irrigue tout le corps. Donc, dès que vous avez une artère durcie, la pression augmente. Et quand on sait ça, quand quelqu'un arrive avec des problèmes cardiovasculaires, vous n'avez qu'à lui poser des questions. D'une part, savoir comment est son système digestif et savoir comment il mange. J'ai eu un patient qui est venu, par exemple, de Bretagne, qui avait une insuffisance respiratoire épouvantable, une fibrose, et il est arrivé, et je lui dis, vous mangez beaucoup de produits lactés et fromagés. Il m'a dit, docteur, je travaille chez Nestlé. J'ai travaillé chez Nestlé. Donc, il avait des prix. Et c'était les yaourts, c'était les laitages, c'était le fromage. Mais je dis, mais vous avez pris votre retraite? Il me dit, oui. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, j'ai levé des ruches, du miel pour le miel. Donc, il sucrait tout au miel. Alors, c'est pareil, ce miel a des composantes extraordinaires. Mais, malheureusement, c'est du sucre. Et à ce moment-là, vous fabriquez le produit qui tue. Donc, le bénéfice que vous apportez par ce miel...
C'est effrayant, si vous voulez, quand je pense que j'ai passé des années à sucrer mes yaourts avec du
voilà,
miel.
Voilà, c'est sûr. Mais donc, vous allez pouvoir constater que j'ai raison. Et alors, naturellement, il avait fumé un petit peu dans sa vie. Il avait donc agressé un peu ses bronches. Et là où c'était agressé, le corps, si vous voulez, d'une part, ça continue à être agressé par ces sécrétions qui étaient, vous avez vu, pour les gens qui font de l'asthme aussi, c'est pareil. Ouais, ouais. Et donc, le corps mettait ce calcium. J'ai un frère qui a eu une tuberculose pendant la guerre. Et la tuberculose, c'était des cavernes. On l'a soigné par le repos et la suralimentation lactée et fromagère. Pourquoi? Mais parce que le corps allait calcifier les lésions. Et automatiquement, au bout de 5 ans, il a été guéri avec des lésions calcifiées et on lui avait dit surtout, surtout, continuer à manger des produits lactés et fromagés. Et en plus, comme il était gourmand et dans des mauvaises conditions que je décris, ben, il aimait aussi les choses sucrées. Et total, mon frère ne fumait pas, ne buvait pas, et à 56 ans, il a fait un infarctus massif qui l'a tué alors qu'il était hospitalisé pour un problème vasculaire. Et ce n'est que 2 ans après que j'ai découvert, si vous voulez, les effets des délétages. Et je me suis dit, mais si j'avais découvert ça il y a 10 ans, mon frère serait certainement en vie. Et depuis, naturellement, quand chaque patient qui vient me voir, je me contrôle à chaque fois. Et chaque fois, je trouve, comme ce patient qui est venu de Bretagne, si vous voulez, des raisons. Et ça, on n'en parle pas.
Alors, on a parlé de l'hypertension. On va pas citer toutes les maladies, oui, mais parce que vous parlez de l'asthme, du cancer, de la circulation, des problèmes de circulation, des problèmes de la dépression, de la digestion, de l'eczéma, de la fatigue, de l'hypertension. J'ai l'impression de lire comme dans le fameux bouquin 3 hommes dans un bateau, le gars qui lit le dictionnaire des maladies, il sort en disant la seule maladie que j'ai pas, c'est la maladie du genou de la femme de chambre. Donc, hypertension, maigreur, mal de dos, obésité, ostéosporose, respiration. Problème de respiration, spasmophilie, problème lié au sport de haut niveau, troubles digestifs, vieillissement. Donc on a l'impression, quand on lit votre livre, que vraiment toutes les fonctions, soit directement, soit indirectement, de l'excès de laitage dans l'alimentation.
Excès de laitage et de sucre.
Et
le sucre, c'est pour moi l'aliment le plus dangereux que je connaisse.
Mais quel que soit le sucre, alors.
Ah, quel que soit le sucre.
Le sirop d'érable.
N'importe quoi.
Le miel.
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'avec le sucre rapide, vous fabriquez très vite le produit le plus agressif, vos enzymes pancréatiques. Et ce sont eux qui vont attaquer, qui vont passer à travers votre côlon, détruire la paroi de votre côlon, comme ils ont détruit la paroi de l'appendice. Hein, ça se voit dans... Et là où c'est attaqué, vous mettez le calcium. Donc, toutes ces jeunes femmes qui prennent, par exemple, des yaourts maigres, pour maigrir. Alors dans ces yaourts maigres, on a enlevé les graisses naturellement, mais le lactose est là et le calcium. Et qu'est-ce qu'on retrouve des calcifications dans les seins? Ouais.
Ah, si on prend du yaourt maigre avec du faux sucre, là, c'est...
Mais, non,
c'est... Se jeter directement
le yaourt est maigre de graisse, mais n'est pas maigre du facteur agressif beaucoup plus dangereux, qui est le lactose, parce que c'est un sucre rapide. Et tout est indirect. Mais dans le corps, tout se tient. Actuellement, la médecine, si vous voulez, chacun a son petit quartier à examiner, et on ne relie pas tout ensemble. Alors, ce travail m'a fait relier des tas de choses ensemble, parce que j'avais des résultats au départ que je ne comprenais pas.
C'est ça qu'on appelle la médecine holistique aussi.
Mais oui, c'est une médecine. Alors, vous avez vu que les Chinois, ils ont une médecine empirique qui a 5000 ans.
Vous avez un sinologue devant vous.
Oui, et elle est empirique, mais c'est une médecine de prévention. Or, ils ont découvert très vite que selon ce qu'on mangeait, puisqu'ils étaient payés, les médecins chinois surtout, quand leurs patients n'étaient pas malades, et si c'était des gros dignitaires, on leur coupait le cou. Donc ils ont découvert que selon l'alimentation, les gens étaient plus ou moins malades. Donc ils ont supprimé tous les produits lactés et fromagers, et le sucre en quantité, ils l'ont supprimé aussi. Et ils sont pas toujours en train de boire. Hein, vous les voyez pas toujours se promener, même s'il fait très chaud, avec leur bouteille d'eau. Quoique maintenant, ça arrive, si vous voulez. Mais en plus, il n'y avait pas intérêt à l'époque, puisque les eaux étaient polluées. Donc, donc tout ça, ça se rejoint. Mais c'est empirique, donc je peux leur expliquer pourquoi.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que votre livre, d'abord, c'est un manuel.
Oui. Hein?
C'est-à-dire, c'est pas un long discours sur l'alimentation. Ça se présente d'une façon extrêmement rationnel. Alors, bon, le premier chapitre, c'est le corps, bien l'organisation sûr. Corporelle, la stratégie du corps, on pourrait dire, puisque le troisième chapitre s'intitule la priorité défensive corporelle, la base pathologique digestive, que vous nous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que comme toute alimentation est une forme d'agression, l'organisme organise sa défense et il a tendance à surdimensionner la défense par rapport à l'attaque. Avec en produisant des produits qui deviennent nocifs pour lui-même en quelque sorte.
Oui. Alors on parle beaucoup des additifs, etc. Ça joue, mais le plus important c'est ça. Donc ce qu'ont découvert les Chinois, c'est que à part supprimer les laitages, etc. Il fallait qu'ils mangent un bol de riz et c'est du riz normal. C'est pas du riz complet. Et ce bol de riz c'est une éponge. C'est-à-dire, quand vous prenez un bol de riz à la place de votre yaourt et votre verre de jus d'orange, eh bien vous envoyez que 5% de sécrétions intactes dans votre côlon. Alors que si vous mettez pas de riz à 40%.
Donc, le pain n'a pas le même effet du tout.
Le pain n'est pas aussi efficace que le riz. Le meilleur, c'est quand même le riz. Les pâtes de riz, c'est quand même mieux. Hein.
Donc, Alors après, il y a un discours sur l'appendice, l'appendicite chronique, le rôle de l'appendice.
C'est mon point de départ. Je vois des gens qui viennent. Là, j'ai un patient qui est venu il y a quelques jours. J'ai opéré son fils qui sort demain, d'ailleurs lundi, qui a 14 ans. Il me téléphone, il me dit « J'ai lu votre livre et ici, on ne veut pas opérer mon fils. Je vous l'amène à Paris pour l'opérer. » Effectivement, ce garçon est tel, et ce que j'ai décrit dans mon livre, on le retrouve. Et déjà là, par exemple, vous avez vu qu'avec l'appendice, on ne peut pas dormir couché sur le dos, les jambes allongées.
Absolument impossible.
Déjà là, il est allongé dans le lit, si vous voulez, les jambes devant lui et les pieds droits. Et il reste, il se repose. Et ça joue sur les scolioses. Vous avez vu, il y a des choses ahurissantes.
Oui. Ah, mais c'est un livre qui vraiment, à chaque instant, je l'ai dit, vous fait sursauter. C'est incroyable. Mais alors, on regrette de ne pas l'avoir lu 40 ans plus tôt ou 50 ans. J'aurais voulu lire ça à 12 ans. Je pense que je serais
mais je vois des gens,
encore plus athlétique que je ne suis aujourd'hui.
Je vois des gens qui ont 77 ans, 78 ans, qui traversent la France pour venir me voir.
Alors, vous évoquez donc à peu près toutes les pathologies dont vous dites qu'elles sont liées à ça, l'ulcère de l'estomac, les polypes, les diverticules, les maladies de Crohn, les rectocolites, les facteurs d'autodestruction, ça c'est passionnant aussi, l'agression hépatique, la cirrhose du foie, les calculs biliaires, ça c'est très important également, le diabète. Et vous élaborez une nouvelle théorie sur le diabète. Alors, vous faites état de
voilà, c'est-à-dire que le diabète, on ne le découvre pas tout de suite, hein, même si vous avez un terrain génétique. Il y a donc des facteurs qui vont multiplier ces lésions pancréatiques.
C'est ça.
Et c'est là-dessus que je joue. Parce que on parle beaucoup de l'appendice. Mais l'appendice, c'est pas tout de l'enlever. C'est ce que j'appelle le prologue du Tour de France. L'important, c'est qu'une fois qu'il est enlevé, il faut modifier l'alimentation. Et ça, c'est le plus important. C'est pour ça que je vois autant de gens qui ont été opérés il y a quelques années, qui ont des problèmes digestifs. Pourquoi ? Parce que personne ne leur a donné de conseils alimentaires. Puisque la médecine, en plus, pourquoi donner des conseils ? On enlève un organe qui n'a aucune fonction. Donc, c'est pas la peine de faire autre chose à sa place.
Mais, alors, je vais vous poser une question après, parce que tu me parles d'une question fondamentale. Mais je voudrais, avant, dire, parce que je vois les questions qui s'accumulent des auditeurs et qui vont toutes traits à des pathologies, c'est évident.
Je m'en doute, oui.
Donc, dans ce bouquin, la plupart des pathologies sont évoquées. Hein. Je vais pas continuer, mais enfin, voilà, la spasmophilie, l'ostéosporose, l'hypertension, l'arthrose, l'asthme, l'eczéma, l'urticaire, l'acné, le psoriasis, la chute des cheveux, les cheveux blancs. Alors là, vous vous êtes frappé en plein.
Oui. Ah ben oui, parce que vous savez que j'ai découvert qu'il y a que 22 ans. Ah. 22 ans, mes conseils. Donc avant, j'ai fait toutes les bêtises possibles, imaginables.
Mais pour les gens qui, comme moi, rêvent d'avoir les cheveux blancs, il y a des trucs aussi.
Eh bien, oui, mais le problème de l'agression dont vous parlez, c'est que vous avez vu que cet appendice, où il est là, où il n'est pas là. Et là, ça change énormément de choses. C'est pour ça que les gens qui ont l'appendice, par exemple, vont supporter très bien les produits lactés. Au contraire,
ils vont demander,
puisqu'ils calment leur gastrite avec ça. Mais si vous leur enlevez l'appendice, une fois qu'il est enlevé, ils jouent plus ce rôle de frein, si vous voulez, et le liquide qu'ils vont fabriquer va arriver très vite dans le côlon. Et là, ils se rendent compte que j'ai raison.
Voilà.
Donc, l'obésité infantile, c'est ça aussi. Ouais. Hein, actuellement, tous les petits patients que j'ai opérés depuis des années, puisque j'ai dû en enlever quelques 9000 appendices sur des générations, parce que j'ai toutes des familles entières qui défilent, eh bien, je n'ai pas d'obèses chez mes petits patients que j'ai opérés il y a des années. Donc, tout ça, c'est...
Alors, donc, ouais. je réponds d'avance. On ne va pas répondre à toutes les questions, parce qu'on n'a matériellement pas le temps. Mais, oui, on va les lire. Mais, toutes les pathologies, pratiquement, sont évoquées et sous l'angle que vous avez évoqué. Maintenant, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est une question, je dirais presque métaphysique. Si c'est vraiment aussi mauvais que ça, l'appendice, si c'est vraiment à la fois aussi inutile et même nocif, pourquoi le bon Dieu nous a-t-il collé un appendice ?
Eh bien, vous avez vu que je réponds à cette question. Et je dis que si l'homme des cavernes n'avait pas eu d'appendice, eh bien, on ne serait pas là.
Voilà.
Alors, expliquer.
Je voulais que vous le disiez parce que pour montrer quand même que.
Il n'y a aucune explication, par exemple, pourquoi le chien n'a pas d'appendice, le cochon n'a pas d'appendice. Il n'y a que les primates qui ont un appendice. Et vous avez scientifiquement aucune explication. Alors que la logique, c'est que cet appendice, au départ, c'est très intelligent. C'est un petit organe qui est chargé de détecter l'arrivée du liquide qui attaque. Parce que si le côlon est rempli de matière, il ne se rend pas compte qu'il y a quelques gouttes qui arrivent. Quand ça pénètre, s'il est intact, c'est que le côlon est intact. Si par contre il a des plaies, votre corps réagit
en disant... Ça prévient tout de suite.
Et immédiatement, il déclenche son plan hors sec. Hmm. Donc cet appendice a servi à l'homme des cavernes à atteindre l'âge de procréer. Parce qu'il fallait qu'il survive au moins 14 ans pour faire des enfants. Donc la race se serait éteinte, alors que le chien a qu'un an à attendre.
Voilà. C'est absolument génial. Ça confirme ce que je pense, le bon Dieu est quand même intelligent.
Non, c'est vraiment... Moi, j'ai été en admiration devant l'organisation corporelle, devant ce corps. Moi, cette recherche m'a... j'étais ébahi de voir, si vous voulez, l'intelligence de ce corps.
Hein, Et alors, deuxième question, puis après, on lira les questions des auditeurs. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel c'est fini, quoi ? C'est-à-dire, bon, on dit c'est même plus la peine de se faire enlever l'appendice parce que on est foutu.
Alors, vous savez, je pense qu'on peut améliorer les gens. Il ne faut pas prendre de risques. Mais actuellement, vous avez un problème de colique néphrétique, on va vous opérer à n'importe quel âge, une hernie, une éventration à n'importe quel âge, et l'appendicectomie dans les conditions où c'est chronique n'est pas dangereuse. Il y a beaucoup de gens âgés qui meurent d'une péritonite torpide parce qu'on n'a pas fait le diagnostic avant. Et ce que je cherche, surtout pour mes confrères, c'est que le diagnostic est avant tout un diagnostic d'interrogatoire, mais de palpation du ventre. Or maintenant, vous avez vu dans les examens, notamment la si vous lisez la conclusion, hein, il y a un cas clinique ahurissant qui est là. Et j'ai été surpris de voir que ce patient, si vous voulez, qui a été examiné par un grand patron, ben, n'avait pas palpé son ventre. Alors que pour moi, il était impératif qu'il soit opéré dans les, pratiquement immédiatement. Et vous avez vu le résultat, et je dois vous dire qu'il va toujours très bien.
Ah, mais ça, les exemples que vous présentez en conclusion sont tout à fait étonnants, hein. Voilà, les effets immédiats, radicaux de l'intervention.
Là, j'ai des preuves, hein, sur le plan des examens. C'est ça, surtout. Les examens cliniques, les examens biologiques. Donc, c'est des preuves. Et puis, en plus, cliniquement, ce patient, ses parents habitent à Strasbourg, et j'ai eu des nouvelles. Donc, il va toujours très bien.
Voilà, donc pas d'âge limite, des vieillards comme nous peuvent avoir recours à la plastique.
Mais de toute façon, si vous voulez, quand les gens prennent de l'âge, moi je connais bien la pathologie appendiculaire, mais je sais ce qui peut arriver. Donc ce qu'il faut faire, c'est des examens soigneux pour éliminer les autres lésions qui peuvent arriver à bas bruit. Donc faire des bilans, coloscopie, des fibroscopies, des scanners, il faut tout éliminer. Et une fois qu'on a tout éliminé ces lésions, et c'est là que la médecine vous dit c'est nerveux, et bien là, à ce moment-là, si vous voulez, j'interviens, mais surtout après, ça me permet de modifier l'alimentation, et les gens vont mieux. Sans ça, j'aurais arrêté de faire ce que je fais.
Alors, Victoria, donnez-nous l'écho des interventions des auditeurs.
Pourriez-vous demander au docteur Pourtalet d'apporter une explication scientifique à ces affirmations ? Quel est ce produit qui attaque ?
Eh bien, ce sont les sécrétions bilio-pancréatiques. C'est-à-dire que quand vous mangez, une fois que votre aliment, parce qu'on vit sans salive, donc c'est pas la salive qui va transformer l'aliment, on vit sans estomac, hein, on vous l'enlève, donc c'est pas les sucs gastriques qui vont transformer l'aliment. Par contre, une fois que l'aliment est sorti de l'estomac, et plus il est liquide, plus vite il sort, vous allez rajouter de la bile et les enzymes du pancréas, qui sont des ferments destructeurs, comme de l'acide sulfurique, qui vont détruire l'aliment en 6 à 8 heures jusqu'à l'échelon cellulaire. À ce moment-là, il peut traverser l'intestin grêle, et passer dans votre sang et nourrir votre corps. C'est ça le produit. Et ce produit reste à peu près 6 à 8 heures dans l'intestin grêle. Il arrive dans le côlon, le gros intestin, et il va rester entre 25 et 75 heures, hein, selon la constipation. Et selon ce que vous mangez, vous aurez une quantité plus ou moins importante de sécrétions intactes, ça c'est pas moi qui le dis, qui vont arriver dans ce côlon, donc d'acide sulfurique pur. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est facile à contrôler, vous le contrôlez avec le melon. Hein, puisque vous en avez parlé, hein. Donc plus vite un aliment, c'est-à-dire que la médecine n'a jamais tenu compte de la qualité d'un aliment, hein, aucun régime. Donc le même aliment avec les mêmes constituants, quand il est liquide, est beaucoup plus dangereux que le même aliment solide. C'est pour ça que les gens qui sont des colitiques, donc très sensibles à cette agression, ne supportent pas les potages, sauf s'ils ont l'appendice qui lui ralentit la descente de ce liquide.
Voilà.
Alors, je suis horrifiée d'entendre que le lait n'est pas bon. Que prendre alors, et qu'en est-il des fromages ?
Alors, oui, bien sûr. Là, je peux vous répondre. Le lait est un aliment excellent, mais malheureusement, si la nature l'arrête, c'est qu'elle a ses raisons. Et donc, il faut vous dire que moi, je ne suis pas pour détruire le lait. Je pense qu'on commence à en faire. Les Japonais font des laits avec beaucoup moins de calcium. Il faut enlever dans le lait, pas automatiquement les matières grasses. On a besoin de matières grasses sur le plan vasculaire. Il faut enlever dans le lait le calcium.
Mais la plupart des gens qui boivent du lait disent c'est parce que ça, c'est pour me recalcifier.
Oui, mais le calcium, vous avez vu, je fais un chapitre, ce soi-disant acide qui nous veut du mal. Donc, c'est facile de retrouver des gens qui ont des pathologies, justement, empoisonnantes, telles que je cite, de voir quelle est leur alimentation.
Hein?
Et d'ailleurs, je dois dire que moi, depuis 22 ans, je suis mes conseils, je me porte
très bien. Est-ce qu'on peut vous demander votre âge ?
J'ai 73 ans.
C'est incroyable.
Donc,
c'est tout à fait étonnant. Voilà. Hein, je veux dire, vraiment.
Quarantaine.
Alors, vous allez comprendre aussi que ce produit, vous avez vu, c'est Audrey Hepburn dont je parle. Ouais. Audrey Hepburn avait tout à fait la caractéristique de quelqu'un qui a l'appendice. Elle se tenait comme ça, elle était épaules en avant. Donc, elle vivait en Suisse. Donc, naturellement, pour l'ostéoporose, on lui faisait prendre beaucoup de produits naturellement lactés et avec très peu de matière grasse, allégée si vous voulez. Et à 63 ans, elle avait des rides épouvantables.
Absolument.
Hein? Et en plus, cette alimentation avec l'appendice, elle se rendait pas compte qu'elle attaquait son système digestif. Alors quand elle était suivie par ces grands médecins suisses et ces grands médecins de la clinique Mayo à New York, eh bien quand elle arrivait, on lui disait mais sur le plan digestif, et elle avait cette alimentation sous appel de confort, elle disait non, ça va très bien. Or, un cancer du côlon n'arrive pas en deux mois, trois mois. Elle est partie pour une mission de l'UNESCO, et là, on l'a rapatriée en urgence parce qu'elle était en occlusion, c'est-à-dire l'importance de la tumeur. On l'a opérée, trois mois après, elle était morte. Donc, je pense que si j'avais pu la consulter 10 ans avant, hein, j'aurais d'abord fait faire aussi des examens, puisque je sais ce qui peut arriver au point de vue coloscopie, qu'on n'a jamais dû faire, puisqu'elle allait bien. Et elle serait certainement pas morte. Voyez, et alors ça joue sur les rides, ça joue sur énormément de choses, cette alimentation.
C'est cet épuisement.
Les vergetures chez les femmes enceintes quand elles prennent beaucoup de laitage, les joues rouges des femmes qui prennent beaucoup de laitage ou les enfants qui prennent beaucoup de laitage, c'est ahurissant. Vous attaquez le système circulatoire avec les laitages. Et ça, naturellement, j'ai tous les exemples, c'est-à-dire qu'en lisant le livre, ils verront d'abord l'explication et tous les exemples cliniques. Hein, parce que je dois dire que si un seul de mes exemples n'était pas bon, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, on m'aurait descendu en flamme.
Vous auriez été absolument, vous auriez été traîné.
Dans les produits laitiers, vous mettez dans le même sac que le lait de brebis et le lait de vache.
Oui, alors pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont les mêmes constituants. Par contre, le lait de brebis ressemble plus, et le lait de chèvre, plus au lait maternel. C'est-à-dire que dans les constituants de ce lait, votre corps va trouver des produits qui ressemblent au sien. Donc, il ne va pas déclencher son plan hors sec de défense. Et son plan hors sec de défense, c'est que quand il constate des choses qui ne sont pas normales dans le sang, il fait une chasse biliaire. Hein, vous avez vu aussi que je donne une autre définition de la fonction vésiculaire. Et c'est là où ça joue. C'est-à-dire que vous allez mieux le supporter puisqu'il y a moins de bile, hein, réflexe. Vous allez donc apparemment bien le supporter. Vous aurez moins de nausées, moins de choses comme ça. Mais finalement, les constituants sont pareils. Il y a du lactose et il y a du calcium. Donc, vous vivez dangereusement.
On peut manger un petit morceau de fromage de chèvre quand même.
Alors, oui, non, mais attendez, moi, j'adore le fromage.
De toute façon, trop tard.
Non, mais j'adore le fromage. Donc, je craque. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je mange du fromage. Mais là, c'est ponctuel. Donc, c'est pas agressif. Ce qui est mauvais, c'est la répétition journalière. C'est ça surtout qu'il faut.
Quand je vous entends, je m'étonne d'être encore vivant. Parce que
me posez la même question.
Mais vous savez, on peut améliorer parce que si les gens viennent me voir, et si je pensais ne pas les améliorer, je ne ferais rien. Je ne prenais pas un risque opératoire, je prenais pas. Donc, et je dois dire, vous avez vu des cas ahurissants.
Tout à fait.
Et vous avez vu que j'ai fait un article aussi qui est paru dans une presse médicale. Hein, une enquête anglaise avait décelé qu'il y avait 95,5% de gens qui font des rectocolites hémorragiques qui ont encore l'appendice. Et c'était demandé si le fait d'enlever l'appendice ne jouait pas un rôle de protection. Mais ils ne pouvaient pas répondre puisque rectocolite hémorragique, ils n'ont pas compris l'agression par les sécrétions digestives. C'est pour ça qu'on leur donne aucun régime intelligent à ces gens-là. Et l'appendice, ils connaissent pas. Alors j'ai fait un article, naturellement. On me l'a passé, j'ai été très surpris. Mais j'avais 5000 caractères à passer. Ouais. Donc j'ai eu très peu. D'ailleurs, j'ai aucun service de gastroentérologie qui m'a téléphoné après pour qu'on en parle. Parce que moi, j'aurais voulu, justement, être invité pour que j'expose. C'est, hein. Et alors, 2-3 mois après, j'ai retéléphoné à ce grand journal médical. Et je lui ai dit, vous savez, c'est très gentil de m'avoir passé, mais j'aimerais dire des choses en plus. Et là, certainement, il avait reçu des reproche gastro-entérologique. Il m'a dit, vous comprenez, mon cher confrère, je voudrais pas qu'on dise que mon journal est la tribune du docteur Pourtalé. Donc, vous voyez que vous allez peut-être vous faire taper sur les doigts.
Oui, on va voir, là.
Mais vous avez peut-être l'habitude. Voilà.
Le sucre des fruits est-il lui aussi néfaste?
Eh bien, oui, tous les sucres sont néfastes, mais toujours par personne interposée, par ses sécrétions. Et c'est pour ça que quand vous mangez un fruit, l'estomac vide, il sort très vite et vous fabriquez très vite le produit. Si vous le mangez l'estomac plein, il se mélange au bol alimentaire, il sort plus lentement et automatiquement, il y a moins d'agressions. C'est pour ça. Donc, manger les fruits en dessert, c'est bien. Et je dois dire que c'est difficile pour quelqu'un qui a l'appendice. Pourquoi ? Parce qu'avec l'appendice, il y a 25 minutes de bon pour manger. Au bout de 25 minutes, l'appendice dilate l'estomac et le ferme. Ouais. Donc, quand vous arrivez au dessert, manger un fruit, c'est impossible.
Impossible, absolument. Ouais.
Et à ce moment-là, votre estomac, quand vous mangez un fruit, téléphone et dit non, mais ça va pas, je vais manger. Bon, ouais. Si vous le mangez l'estomac vide, à ce moment-là, votre estomac, qui a le téléphone prioritaire, dit mais c'est formidable, parce qu'en plus, avec ça, c'est de l'eau et du sucre, et il adore ça, parce qu'il n'y a pas de remontée de bile. Et en plus, ça dilue ses sucres acides à lui, il se brûle moins.
C'est ça.
Hein? Donc,
c'est à l'étage inférieur que les choses se passent.
Voilà, c'est à l'étage inférieur.
Vous répondez à l'auditeur suivant. Pour vous, à quel moment faut-il manger les pommes ? Avant le repas ou au petit-déjeuner ?
Ah non, surtout pas le matin. Vous avez vu, j'ai des conseils alimentaires dans le livre. Ça, des gens qui peuvent les suivre. Il faut manger en dessert. Moi, je ne mange jamais de choses sucrées le matin. Et le matin, mais j'ai été opéré d'appendicite à 7h30, c'est pour ça que j'ai cherché. Et le matin, en me levant, je vais immédiatement manger un petit sandwich. Et je mange du jambon, je mange du saucisson.
C'est sympathique, ça.
Vous voyez ?
Ouais.
Et je ne bois pas tout de suite.
Ah bon.
Après, je prends un petit café avec des sucrètes, hein, ouais. et pas en grosse quantité. Et je vais très bien. Vous avez vu que j'ai expérimenté tout ça.
Oui, il y a 22 ans. Ah, mais là, vous devriez faire passer votre photo. Vous avez, il y a votre photo à la une, mais le fond vert et pas très illuminé.
Voilà.
Non, une photo de vous bien grande et tout, c'est la meilleure publicité. Vous mettez, vous devriez avoir un t-shirt avec j'ai 73 ans.
Voilà.
Changer
voilà.
De t-shirt une fois par an, ça vous coûte pas trop cher. Et c'est vraiment spectaculaire. Oui. Docteur Porta, oui.
Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du vin, du cidre et de la bière?
Alors, ces produits, ce sont des sucres. Donc, il faut se méfier. Par exemple, un diabétique, s'il prend du vin, s'il prend du cidre, s'il prend de la bière, il va avoir sa glycémie qui augmente. Alors, le vin, je crois qu'il faut en consommer avec modération. Moi, j'adore prendre un bon vin. Si je sors, je vais au restaurant, mais la plupart du temps, je n'en prends pas. Alors, c'est vrai que le vin, dans l'ensemble, est mieux que le lait. Sur le plan de l'agression, voyez. Mais ça veut pas dire
qu'il y a quand même une justice.
Ça veut pas dire qu'il n'agresse pas. Hein, donc se méfier avec ce que vous mangez. Et je crois qu'une fois que vous avez bien lu ce livre, vous savez exactement ce que vous pouvez manger ou pas manger, et on peut faire des écarts.
Docteur Pourtalet, on va pas lire. Il y a encore des plein de questions, mais on peut pas toutes les lire parce que j'ai mon invité suivant qui autrement va se trouver frustré. Et puis en plus, on risque de ne plus lire votre livre, ce qui serait à mon avis une erreur grave. Alors ce livre s'appelle Le corps a ses raisons que la médecine ignore. C'est pas un très bon moyen de se faire des amis dans la médecine.
J'ai fait exprès pour qu'on m'attaque, mais personne m'a attaqué de front.
Le docteur Georges Pourtalet, Pourtalet, il est paru aux éditions du Dauphin. C'est la réédition, mais alors largement modifiée, augmentée, réalimentée.
Ça n'a pratiquement
plus rien à voir avec celui qui est paru il y a 12 ans.
Non. Oui.
Mais le fond reste le même.
Le fond reste le même. Beaucoup plus riche.
Et il est quand même préfacé par le professeur Guy Benamou, chef du service du groupe hospitalier Bichat à Claude Bernard.
Qui est membre de l'Académie de chirurgie.
Ce qui est courageux de sa part d'avoir.
Oui, mais je vais vous dire que là, quand même, la petite anecdote, c'est que je l'avais offert mon premier livre et je l'ai rencontré accidentellement un an et demi après dans un couloir de clinique où il venait opérer là où j'opère et je lui dis au fait tu as lu mon livre? Il me dit oui deux fois. J'ai été tellement stupéfait de voir qu'un chirurgien de
lise premièrement et deuxièmement deux fois.
Il m'a dit après tu m'as beaucoup appris et ça c'était le meilleur compliment voilà. Et c'est pour ça que quand j'ai réécrit ce livre, je lui disais je refais parce que je veux pas que mon livre se perde, je refais un autre livre où je rajoute des tas de choses. Est-ce que tu veux me faire une préface? Il me dit au contraire avec grand plaisir. Je lui dis tu sais si tu veux pas on restera copains, c'est pas un problème parce que ça l'a engagé. Hein,
c'est sûr.
Deux jours après j'avais ce que vous avez derrière. Il était à Bichat et il m'a faxé donc ça, voilà.
Et voilà. Quel est son prix?
Son prix est de 22 euros. Mais alors ça, je crois que c'est un des investissements les plus intéressants qu'on ait fait.
Alors les libraires peuvent le commander aux éditions du Dauphin, c'est très bien distribué. Ils peuvent le réclamer à la FNAC, mais tous les libraires peuvent l'avoir.
Et vous acceptez éventuellement de faire des signatures?
Avec plaisir.
Parce que je pense à nos amis de la librairie, qu'on appelle du Petit Pont, la librairie France Livre.
Non, c'est une librairie, ce n'est pas là.
France Livre, qui serait certainement ça. Ouais. Alors, je vais leur demander de prendre contact avec vous, parce que ce serait intéressant que nos auditeurs vous voient.
Bien sûr.
Parce que je trouve que vous êtes vraiment tellement une publicité vivante pour votre méthode qu'il faut absolument vous montrer.
Ils réclament aussi. Savoir où ils peuvent vous consulter.
Alors là, je suis sur le bottin.
Voilà, comme tous les bons médecins.
Je suis sur le bottin. Je ne peux pas faire. Je suis à Paris. Donc sur le bottin, ils peuvent me retrouver.
C'est un outil pratique, l'annuaire. Ça permet de trouver pratiquement tous les gens qui sont inscrits. C'est votre éditrice qui est venue nous voir là. Vous allez bien, madame? Bon. Eh bien, écoutez, merci d'avoir publié ce livre qui est, moi je crois que j'ai compris, maintenant je vais...
Je vous attends, hein.
Je vais surtout arrêter de manger du fromage.
Je vous attends parce que j'aime bien examiner les gens pour leur donner des conseils éclairés.
Hein, voilà. Merci docteur, c'est très gentil.
Je vous remercie surtout de m'avoir invité.
Et puis, nous allons passer maintenant à tout à fait autre chose. Quoique, on a quand même réussi à parler de la Chine, mon cher Patrice, au cours de cet entretien avec le docteur Portalet. Alors,
c'est une passion pour moi la Chine. Hein. Ça fait
ah bah alors restez, parce voilà. Que là vous avez en face de vous un authentique sinologue, un peu sinoque aussi d'ailleurs, puisqu'il fait de la... Là, il a trouvé une solution pour un moyen d'expression intéressant qui est la bande dessinée, mais il ne fait pas que ça. Alors, je t'ai invité ce soir, Patrice, pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu as fait une exposition, tu as participé à une exposition récemment. Elle est toujours en cours ?
Non,
elle est terminée. Et tu as publié dans Le Monde une bande dessinée qui est en quelque sorte la présentation...
Une espèce de survol, oui.
Voilà, le survol de l'œuvre que tu vas publier prochainement et qui est consacrée à Qin, le grand empereur Qin.
Qin Shihongti, oui, c'est le premier empereur, le premier empereur chinois réel, voilà. Quoi. Celui qui a regroupé tous les états, les royaumes combattants et qui n'a fait qu'un pays qui s'appelle la Chine à cause de du nom du royaume de Chin.
Alors, tu es c'est pas un compliment parce que tous les amateurs de bande dessinée le savent depuis maintenant au moins 30 ans ou 40, voire 40. Oui, pratiquement 40 ans. Tu es un très grand dessinateur. Tu as créé des personnages ou repris des personnages célébrissimes dans la bande dessinée. Qui peut-on citer?
Tanguy
et la Verdure, les personnages de Milton Caniff, les personnages enfin tous les grands de la BD. Tu es un grand de la BD. Et un dessinateur qui, à mon avis, par le style, est aussi élégant que Hugo Pratt.
On est un petit peu de la même famille. Voilà. Quoi, hein. Ouais. Moi, je suis un élève de Frank Robbins. Je m'en flatte.
Il y a d'ailleurs des dessins qui sont tout à fait.
Ça me revient sur le pinceau. Hein.
Mais tu es aussi, alors, c'est ce qui est quand même tout à fait étonnant, tu es un spécialiste de la Chine, tu parles chinois, tu as vécu en Chine au moment de la révolution culturelle.
Ce
qui n'était pas facile. Et tu as travaillé beaucoup sur la personnalité de cet empereur.
C'est une idée que j'ai eue depuis très 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 longtemps, mais qui me semblait inabordable. Et en 1974, tu sais bien, il y a eu une découverte comme ça, extraordinaire. L'agence Chine Nouvelle a dit que c'était la découverte la plus fantastique depuis Toutankhamon. Et ils ont découvert, effectivement, ce sont des puisatiers qui ont creusé un puits à peu près un kilomètre d'une espèce de tumulus. Alors, on savait depuis très très longtemps que ce tumulus était le tombeau du premier empereur. Et c'était très très mal vu, parce que cet empereur était très méchant. C'était un empereur, c'était le plus grand tyran de tous les temps, de toute façon.
Pire que Mao ?
Ah oui, non mais... Mais tous ces gens-là, on peut mettre Napoléon, Hitler, etc., ce sont des enfants. Parce que ce personnage-là, c'est la tyrannie même. Et en plus de ça, l'idée étonnante avec ce personnage, c'est que il s'est appuyé sur des techniques qui sont justement les techniques de nos démocraties. C'est pour établir sa démocratie, sa tyrannie épouvantable, il a inventé nos techniques de démocratie.
Donc c'est le personnage le plus moderne qu'on puisse imaginer.
Ah bah oui, mais moderne, mais complètement, parce que je veux dire, par exemple, l'idée de l'école obligatoire et gratuite, c'est lui. Et tout ça parce qu'il voulait se débarrasser de la noblesse et du système héréditaire. Et donc, il a fallu qu'il invente un système de...
Le mandarinage.
D'examen. Alors, il y a eu des tâtonnements. D'ailleurs, c'est intéressant, cette histoire-là, parce qu'il y avait des impôts sur le revenu, hein, à récolter. Et puis, il y avait des erreurs. Alors,
je suis obligé de te demander des dates, parce que le règne de Qin, c'est...
Alors, au moment où l'Empire devient l'Empire, c'est 221 avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ, voilà. Ça situe bien les choses. Alors, en 221 avant Jésus-Christ, il y a en Chine, où chacun sait, personne n'a jamais rien inventé, il y a un personnage qui invente, pour commencer, l'école publique laïque et gratuite.
Oui, absolument.
Enfin, laïque, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens.
C'est presque ça.
C'est presque ça quand même.
Oui.
Ensuite,
parce que les religions chinoises, on parle de la Chine d'avant le bouddhisme.
Voilà, d'avant le bouddhisme, bien sûr. Ensuite, il invente pour faire fonctionner son système l'impôt, et l'impôt sur le revenu.
Donc on peut dire 2000 ans
avant le reste
du monde. En fait, c'est l'inventeur des normes, quoi, de la norme. Une fois qu'il a conquis tous les royaumes, il bouleverse évidemment carrément la carte du pays, et il divise le territoire en 36 commanderies. Gouverné par des fonctionnaires. Donc il a fallu recruter ces fonctionnaires qui n'étaient surtout pas de la noblesse. Alors il s'est trouvé obligé d'inventer, là, vraiment. En plus de ça, c'est un pays où on parlait des quantités de langues différentes, qui étaient aussi avec des écritures plus ou moins différentes. Alors il y a eu une histoire extraordinaire quand il conquit toute la Chine, et puis là il réunit tous les grands sages du pays pour savoir parmi ces grands sages qui va choisir comme premier ministre. Et il avait déjà un ministre Liseux qui organise tout ça. Alors tout le monde vient, les confucianistes disent il faudrait qu'on fasse la première loi que j'édicterai si j'étais premier ministre, je ferais ceci, je ferais cela. Ça lui plaît pas trop. Et Liseux vient, lui était déjà ministre de la justice du pays de Chine, et il dit oui, moi j'avais une idée, mais parce que ce qu'il faudrait, c'est que les lois que j'édicte, elles soient intangibles. Or, pour que ça soit possible, il faudrait faire un dictionnaire. Première chose qu'on fait, c'est un dictionnaire.
C'est la naissance du Libre Journal. Tu sais que le premier éditorial du Libre Journal citait cette fameuse phrase quand les gens vont voir Confucius pour lui dire tout va mal, l'Empire est en déconfiture, les enfants ne respectent pas les parents ne respectent pas leurs paroles, les supérieurs ne respectent pas les subordonnés pas les supérieurs, les bandits attaquent dans les rues, les femmes sont violées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Confucius répond: il faut faire un dictionnaire.
Un dictionnaire, c'est ça. Ça, c'est la première idée. Alors Liseux était un légiste. Enfin, c'était l'école des légistes, qui était une école assez terrible. Il fait ce premier dictionnaire pour que chacun, nul n'est censé ignorer la loi, quoi, tout simplement. Et puis en plus, il faut que les gens puissent le lire. Donc on invente l'école obligatoire pour que tout le monde sache lire pour au moins 800 caractères. Enfin, il y avait les fameux 800 caractères. Et évidemment, ces caractères sont inventés parce que il s'est servi de l'écriture de Qin, de Zhao, de Wade, etc., pour en faire une nouvelle. Il a inventé le chinois qu'on écrit encore maintenant. Hein. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette invention-là, elle est étonnante, parce que quand on apprend le chinois, la première chose qu'on apprend, c'est que les Chinois ont des quantités de langues différentes. Il suffit de promener un peu en Chine, enfin avant avant la révolution culturelle. Avant, il suffisait de se promener pour se rendre compte que le Sichuanais parlait pas le Shanghaïen ni le Pékinois, ni etc. Et par contre, tous ces gens-là écrivent la même langue.
Donc s'ils échangent des bouts de papier, ils se comprennent.
Absolument.
C'est un peu comme les muets. Les muets, elles sont mieux avec la langue des signes.
C'est ça. Sauf que cette langue est bien élaborée. Enfin, c'est autre chose. Et en plus de ça, alors on dit, mais autant de caractères, autant de lettres. Non, c'est autant de mots, autant d'idées. Donc c'est une autre façon de penser, hein, quoi, c'est tout. Et ça dure donc depuis 2000 ans. Et il n'y a que Mao qui a simplifié cette langue écrite à partir de 58.
Mais la simplification a fonctionné
Elle fonctionne, là. Elle est actuellement en vie, disons. Il y a encore à Taïwan, on écrit encore comme du temps de l'empereur. Et en plus, il y a toute l'histoire du pinceau. Il a obligé les gens à écrire au pinceau. Avant, évidemment, c'était des caractères sigillaires, donc on pouvait les graver, etc. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'elle a pris cette espèce de curieuse écriture carrée.
Très typique. Qui est d'ailleurs ta signature. J'ai remarqué que tu signais tes dessins maintenant avec un tampon sigillaire. Enfin, un tampon à la chinoise carré. C'est très joli d'ailleurs. Et quand il a eu fait son dictionnaire et inventé cette
la première chose, c'est que pendant très longtemps il y a eu la guerre, donc il a grignoté, quoi, comme on dit qu'il a grignoté comme le ver à soie a grignoté la feuille de mûrier. Quand il n'y avait plus de feuilles de mûrier,
et ben, il commençait à produire la soie.
Alors c'était la paix, mais la première chose qu'il a fait, c'est supprimer toutes les armes et les fondre pour faire la monnaie. Pour faire la monnaie unique, la première monnaie unique, c'est lui. Et alors c'est cette fameuse sapèque ronde avec un trou carré.
Avec un trou pour pouvoir la transporter.
Voilà. Alors il a fait ça, et puis en même temps il a fondu les cloches. Et ça c'est très très important, les cloches. Les cloches, et donc il a fait dans chacune des villes la tour de la cloche, la tour du tambour. Et ces cloches à l'intérieur des tours étaient accordées. Parce que ça avait c'était très important, par exemple, pour le marché. C'est étonnant, cette histoire-là. Donc, le marchand de draps, par exemple, allait à la tour de la cloche. Il avait un luth qui faisait 1,20 m, par exemple, avec une seule corde de soie. Et puis, avec un curseur, il tapait sur la cloche. Et il s'arrangeait pour que le son de son luth arrive exactement au même truc à l'oreille. Et il avait une distance. Ouais. Et avec ça, il mesurait son drap
C'est extraordinaire.
Voilà. Alors tout ça, toutes les cloches étaient accordées exactement de quinte en quinte. Il y en avait 12. Et c'est très étonnant parce que ça refait exactement le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Hein, c'est-à-dire qu'il s'était aperçu que la 12e note n'était pas... Si on commençait au do, par exemple, ou fa, do, sol, ré, la, mi, si, etc. Et on arrivait à la fin au fa. Le fa, il y avait un petit comma de différence, ils l'ont éliminé, etc. Ce qui est en plus étonnant là-dedans, c'est que les cloches, on en voit encore, qui sont encore en service de cette époque, ces cloches-là, elles étaient fondues d'un coup. Et il n'y a pas un trait de lime
pour les
accorder.
Alors comment étudié
des secrets absolument sidérants. Ils avaient d'ailleurs au point de vue de la métallurgie, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que dans le fameux tombeau, on a retrouvé évidemment des quantités d'armes, et des armes avec des pointes par exemple chromées. Ah ouais. Ça c'est un vrai mystère, on ne sait pas du tout. Alors il y avait
que le chrome, ça date
De 1920, quoi.
Oui, c'est ça, c'est le début du siècle.
Pour faire les pare-chocs de voiture.
Ils avaient fabriqué l'acier.
Ah oui, ils avaient l'acier, mais ça c'était bien avant. Bien et avant, justement, ouais. Il y a des histoires d'épées, un peu les Durandal de la Chine. Alors il y avait des épées extraordinaires, mais chaque épée coûtait la vie D'une personne.
Oui, parce qu'il fallait la tremper en le...
Alors, on la trempait
et en l'éventrant.
Quand on la fondait, alors il y avait des épées femelles et des épées mâles, parce que c'était soit la femme du type qui faisait l'épée qui se jetait dans le fourneau, ou son apprenti, ou je sais pas quoi. Voilà. Et alors, donc, il y avait une épée, la fameuse épée taille E, qui est vraiment grande, la Durandal, qu'on va sûrement trouver dans le tombeau, parce qu'il y est, ça. C'est celle qui a été coupée les liens, les destins, etc., au pays des morts.
Alors, continuons sur donc, tu nous disais, il y a les cloches, avec cette histoire.
En même temps, ces cloches étaient des mesures de grain. Ouais. Hein, leur espace était une mesure pour le grain, et le poids, naturellement.
C'est-à-dire le contenu de la cloche définissait la mesure de grain.
Définissait le...
Et la tonalité de la cloche reproduite par un luth définissait la longueur.
Voilà.
Mais c'est prodigieusement...
C'était le maître étalon.
Ça va même plus loin que le maître étalon.
Les mêmes notes étaient jouées par un tambour dans la tour qui était juste à côté. Et là, c'était tout ce qui avait trait au temps. C'est-à-dire le calendrier, les heures, etc., etc., etc. Et donc les gens savaient à l'oreille quelle heure il était. Parce que, effectivement, on montait d'une quinte.
On modulait le...
On montait d'une quinte.
Ah, oui.
On tapait le tambour qui se... On tirait de quinte en quinte et on savait que...
On avait déjà
les 12 heures de la journée.
En 12 heures, ouais.
Voilà. Et en plus, c'est assez drôle parce que on comptait les heures sur la main avec le pouce. Alors, on y avait les... Évidemment.
Avec les phalanges.
Avec les phalanges. Et donc, le nom des notes du tambour avait le nom des phalanges.
Mais c'est presque surnaturel de penser que des hommes, il y a 2000 ans, ont imaginé...
Ah, puis un tout petit groupe d'hommes. Hein, on peut dire qu'il y avait... Mais il était un peu programmé, parce que, en fait, son père n'était pas vraiment son père. Hein, dans l'histoire, c'est...
Et sa mère ne le sait pas aussi, quand même.
Sa mère, justement, elle n'a pas de nom dans l'histoire. On lui a enlevé son nom.
Ah oui.
Ah oui, tellement c'était une messaline. Hein, et son véritable père... on pense que son véritable père, c'était le grand marchand Lubouey, qui lui aussi est une espèce de Mazarin. C'est un personnage absolument sidérant. C'était l'homme le plus riche de son temps. Et donc, quand les royaumes combattants, naturellement, se faisaient une guerre sans merci, mais lui, il avait un palais dans chacune des capitales des royaumes. Et il vendait, naturellement, des chevaux, des armes, etc. etc. Et un jour, il se trouve dans une...
C'était Soros.
Oui, c'est ça. Ah oui, enfin, oui,
en mieux,
Bill Gates, enfin, c'est ça, à peu près, quoi. C'est quelqu'un le plus grand milliardaire de son temps, quoi. Et puis, il arrive, donc, dans un moment, il y a un marché très, très important, dans une capitale qui s'appelle Trandan, dans un royaume de Chao, et il s'aperçoit que on lui donne, disons, comme valet d'écurie, un otage sans valeur. C'était un prince, mais vraiment le 22e fils de celui qui allait hériter du royaume de Chine. Enfin bon, il se dit ça c'est un personnage dans lequel je vais pouvoir investir. Et il monte un scénario carrément. Et ça c'est vraiment son idée. Donc il prend ce type-là sous son aile et finalement il lui donne son palais dans la ville où il est otage. Et il lui donne des coups, enfin il paye des courtisans, enfin il fait une cour absolument insensée. Et puis il prend sa caravane et il va à Chine, là où était originaire le fameux otage. Et il voit son père et il s'aperçoit que son père a une favorite qui n'a pas d'enfant mâle. Alors, il a une idée. Il va voir la sœur de la favorite. Et il lui dit, ça serait bien de dire à votre sœur que elle devrait vraiment prendre sous son aile et peut-être adopter ce jeune fils de votre mari, de son mari. Et finalement, bon, puis il met quelques cadeaux en même temps.
Oui, quand même.
Oui, bon.
Qui entretiennent l'amitié.
Et finalement, la favorite dit, ben oui, c'est pas bête, et comme ça au moins je serai reine. en titre, enfin. Et donc elle adopte, elle demande à son mari, et tout le monde est d'accord, etc. Et donc le jeune homme qui est toujours otage devient le prétendant au trône. Alors, évidemment, là, ça devient, ça devient fou.
Il faut dire un mot sur l'otage. C'est quelqu'un qui est déposé dans un royaume, non pas forcément ennemi, mais enfin un royaume.
En l'occurrence,
pour garantir des traités.
Oui, oui, pour garantir rien du tout, puisque l'autre, évidemment, mettait le siège autour des villes sans arrêt. Ouais. Et alors, évidemment, le marchand revient. Alors, en même temps, lui, le marchand, on l'a nommé tuteur du prince, enfin, etc. Et bon, donc il revient à Handan et il voit le jeune prince, mais il a ramené dans ses bagages une femme très très belle qui est devenue sa maîtresse. Le prince voit cette femme dans les bagages de son mentor, il en tomberait d'amoureux et il lui demande sa main. Alors l'autre dit quand même non, c'est un peu dur, mais puis finalement il cède. Et mais naturellement, elle était enceinte du fameux Tsin Shi Huangdi.
Voilà l'histoire.
Alors, Tsin Shi Huangdi,
c'est le chat beauté,
c'est le marquis de Carabas.
Ah, c'est vraiment extraordinaire, ça, tout ça.
Et alors, évidemment, il naît en prison, finalement, le fameux le futur Tsin Shi Huangdi. Et donc, il y a toute une histoire où il s'évade, enfin, c'est extrêmement terrible. Et Lu Buwei, le marchand, qui lui peut toujours marcher, une fois que le fameux prince réussit à s'évader, il devient évidemment roi de Chine, et à ce moment-là, il paye ses dettes. C'est-à-dire qu'il prend Lu Buwei comme premier ministre, et puis il lui offre un marquisat absolument délirant.
Ah, vous voyez, vous avez vos chances, le marquis. Hein.
Voilà, donc il est devenu le marquis de l'Empire Qin, enfin du Royaume Qin. Et bon, l'histoire continue comme ça, et Lu Buwei a une idée absolument extraordinaire. Parce que Qin, c'était un peu la Prusse de cette époque. C'est-à-dire que c'était des gens un peu très, très militarisés.
Très à la toile. Quoi.
Très, oui, oui. Et disons, ils étaient un peu à l'écart du grand mouvement intellectuel des autres royaumes.
Sparte.
C'est un peu Sparte, voilà. Oui, c'est à peu près ça. Alors, il y a une idée qui germe, c'est qu'il va demander dans toute la Chine, dans tous les royaumes, tous les grands sages. Et il va faire c'est une époque qu'on va appeler, ça va te rappeler quelque chose, les 100 écoles et les 100 fleurs. Et donc, il invite évidemment tous les grands penseurs de toute la Chine qui viennent à Qin, justement, rendre visite à Lu Buwei.
C'est une véritable révolution culturelle.
Et il dit, voilà, on attend un personnage, on attend un personnage depuis des siècles, qui a certaines caractéristiques. Le premier empereur mythique, c'était l'empereur jaune, et c'était la terre, c'était etc. Le deuxième empereur mythique, 600 ans ou 700 ans après, ça a été l'empereur Yu le Grand. Et Yu, lui, a pris le bois, la couleur verte, etc. Ensuite, on a eu l'empereur blanc. Ensuite, on a eu, et donc là, ils étaient dans l'empire Chu. Où tout le monde s'en foutait d'ailleurs, puisque c'était un suzerain dont tout le monde se fichait, et c'était la couleur rouge, le feu, etc. Et le prochain qui va venir, qu'on attend tous, ça va être l'empereur du monde, et ça sera l'empereur Yin, sévère, noir, cis, etc., etc. L'eau. Alors tous les sages sont bien d'accord là-dessus. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'un peu commun, quoi, dans toutes les philosophies à l'époque. Et ils vont rédiger la première encyclopédie. Alors, c'est une encyclopédie absolument sidérante qui s'appelle « Les printemps et automnes du sieur Lu », de Lu Buwei, parce que c'était lui qui les avait commandités. Et c'est un livre absolument passionnant, mais vraiment passionnant.
Il existe en français
de... Oui, il existe en français depuis peu. Il a été traduit d'abord par Chavannes, mais il y a très très longtemps. Et là, il a été traduit par un Russe, dont j'ai oublié le nom. Et c'est tout à fait extraordinaire.
C'est un Russe qui l'a traduit en français.
Oui, il l'a traduit en français. Oui, il est français. C'est un franco-russe. Et donc c'est un livre passionnant parce qu'effectivement ça explique tout ça. Ça explique. En fait, c'est pas du tout une encyclopédie. C'est en fait un mode d'emploi pour le futur maître du monde.
C'est ça.
Voilà. Et alors donc, on attendait. Lubouey s'est dit, donc je vais prendre mon fils et je vais le.
Quelle belle histoire.
Voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé effectivement.
Alors ce fils, donc cet empereur Chine, dont tu nous racontais tout à l'heure.
Alors il devient roi à 13 ans.
Ouais.
À 13 ans, il devient roi de son royaume Chine. À 13 ans, la première chose qu'il fait, c'est de faire construire son tombeau. Hein, à 13 ans, c'est quand même intéressant. Alors, à 13 ans, il va voir des magiciens pour savoir où ça doit être, etc. Et on lui montre l'endroit où ça doit être. Il fait creuser et on s'aperçoit qu'il y a un lac souterrain à cet endroit-là. Il a dit, ça fait rien. On va le vider, le lac souterrain, parce que ça doit être là, puis c'est tout. Donc ils ont mis 20 ans à le vider le truc, et les noyer, enfin bon, etc. Et pendant toute sa vie, ce tombeau va être aménagé de plus en plus, et il y aura sans arrêt 700 000 personnes qui vont travailler tout le temps dessus. Bon voilà, et ça a duré jusqu'à sa mort. À sa mort. Bon.
Et c'est ce tombeau qu'on doit retrouver, là.
Alors, ce tombeau, on sait où il est, bien sûr, mais la grande subtilité, c'est qu'il avait évidemment vidé le lac souterrain, mais quand il est mort, on a remis le lac souterrain au-dessus du palais souterrain.
De Jade, probablement.
Alors, il y a une description de ce Matienne, évidemment, depuis 50 ans après sa mort, donc elle a toute chance d'être vraie. Il y a donc ce palais, maintenant on en a vu à peu près les traces, parce qu'ils ont fait des sondages, enfin un petit peu particuliers, infraterrestres, enfin des choses assez intéressantes, et donc on voit que c'est un palais qui doit faire 500 mètres sur 500 mètres, à peu près. Et il y a une pièce centrale qui, elle, fait à peu près 100 mètres sur 100 mètres. Et dans cette pièce, en fait, alors la description de ce Matienne, c'est incroyable. Donc le sol, c'est la carte de la Chine. Et le ciel, enfin le plafond, c'est le ciel de la Chine. Alors le plafond, c'est une voûte en cuivre, 100 mètres sur 100 mètres, et qui est piquée de pierres précieuses, qui sont les étoiles exactement à l'endroit où elles doivent être. Et puis le sol, c'est vraiment, il y a les montagnes, les forêts, les maisons, avec les meubles dedans, se maintiennent. Et les rivières sont faites en...
En épilasse du lait
Non, elles sont faites en mercure.
En mercure.
Système qui permettait de les faire couler. Et donc les deux grands fleuves sont là avec la mer, en mercure aussi, et dans la mer il y a un bateau en pierre sur lequel il y a le sarcophage en jade et or de l'empereur. Voilà. Voilà. Et alors brûle un million de lampes à huile, éternellement bien entendu, puisqu'ils avaient une huile de poisson particulière qui devait brûler éternellement. Ce qui est d'ailleurs une très grande chance, parce que ça va avoir bouffé tout l'oxygène, et il y a peut-être des chances pour qu'on retrouve les choses beaucoup dans bien meilleur état que ce qu'on a pu retrouver par ailleurs, quoi. Mais les soldats qu'on a retrouvés...
C'est
assez loin, hein.
C'est la fameuse armée enterrée.
Oui, alors le tombeau, au-dessus du tombeau, il y a un tumulus qui est en fait exactement une pyramide, hein, c'est une pyramide, sur laquelle il a fait pousser, évidemment, des arbres pour que ça ressemble à une montagne. Mais quand on a une vue aérienne, on voit bien que c'est une véritable pyramide. D'ailleurs, les pyramides, les empereurs chinois se sont fait souvent enterrer, enfin de cette époque, se sont fait souvent enterrer sous des pyramides. Il y a beaucoup de pyramides en Chine. curieusement.
Ouais.
Et
c'est une constante.
Et alors, effectivement, parce que c'est ça a quelque chose qui a évidemment beaucoup à voir avec les Égyptiens, d'ailleurs, cette façon de devenir immortel. Enfin, il y a toute cette idée. En plus, cet empereur-là, lui, il était hanté par cette idée-là. Il allait devenir immortel.
C'est le cas, d'ailleurs, il est devenu immortel.
Oui, mais lui, il voulait l'être vraiment. Alors, par exemple, il y avait une montagne qui était devant son palais, enfin, quand même 45 kilomètres, mais enfin bon, c'est une montagne très escarpée, etc. Et là, il y avait des immortels qui avaient le secret de l'immortalité. Et ces sales cons, on ne voulait pas lui donner. Donc, il a fait raser la montagne. C'est un grand humaniste. Alors, il avait appris qu'il y avait aussi d'autres immortels qui étaient dans les îles Pailing, qui étaient au-delà des mers, très loin.
L'histoire des îles, c'est prodigieux, parce que c'est l'histoire des nuages.
Oui. Alors, en plus, c'est vrai, parce que la description, c'est que les îles, elles sont dans l'air, effectivement. Alors, il a fait, tout simplement, fabriquer un bateau qui faisait presque 200 mètres. C'est incroyable. Il a mis 1000 enfants, vierges naturellement, dedans, de la nourriture pour un an, et puis un capitaine eunuque. Il vogue la galère. Il y avait 17 mâts. On a retrouvé là justement il y a très peu de temps, on a retrouvé ça dans une des fosses. On a retrouvé une espèce de dessin qui montre le bateau. Et alors la chronique le dit bien. Donc les gosses sont partis. On pense qu'ils sont allés jusqu'en Australie et ils sont revenus. Et ils ont dit, on a vraiment vu les immortels, on les a reconnus, ils ont trois bosses sur la tête, c'est comme ça dans le texte. Et bon, mais on n'a pas pu aborder, etc., parce que les îles sont dans l'air. Donc le bateau ne peut pas aborder, quoi, bon, etc. Donc il faut qu'on y retourne avec des échelles et tout ça. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont repartis. L'empereur leur a refait faire un autre bateau mieux, etc., etc., avec des échelles et tout. Et ils sont partis, mais malheureusement, on ne sait pas s'ils sont revenus ou quoi, puisque l'empereur sur ce
bateau
est mort. Dans des conditions, d'ailleurs, assez rocambolesques. Parce que lui, naturellement, il a fait construire... Il faut se dire que le réseau routier de la Chine, c'est quelque chose d'incroyable, parce qu'il a perduré jusque dans les années 20. Hein. Il y a encore, j'ai encore des gravures de type qui sont à cheval sur les routes en question, qui sont des routes qui faisaient 24 mètres de large. C'est quand même assez fantastique, avec au milieu une chose pavée qui était uniquement faite pour les coursiers et pour
impériaux.
Voilà. Et tout le reste, c'était les chars avaient un essieu d'une dimension qui restait jusque dans les premiers chemins de fer chinois.
Alors ça c'est merveilleux parce que c'est exactement la même chose en Europe. Tu sais que la largeur des tunnels en Europe a été imposée, pas du tout par la largeur des trains, mais par le fait que la largeur des trains a été décidée en fonction de la largeur d'un équipage de deux chevaux traînant
c'est
une
ça.
charrue.
C'est ça.
Là
vraiment en fait on pense que c'est parce qu'il y avait les fondrières naturellement et il fallait qu'elles soient exactement de la même la même largeur et donc ça pouvait aller
donc c'est le même la même nécessité a fait la même loi en Chine et en Europe.
Il y a encore mieux c'est une digression parce que là on se place 400 ans plus tard mais parce que le lit la longueur de, disons qu'il fait à peu près 500 mètres, qui faisait à peu près 500 mètres, a été décidée par l'empereur, justement. Mais 400 ans plus tard, il y a eu un autre Chinois extraordinaire, qui s'appelait Chang Reng, qui était en charge de faire la carte de la Chine, et il s'est rendu compte que la Terre était ronde, en faisant la carte de la Chine. Alors il s'est rendu compte, il s'est dit, bon voilà, l'univers c'est un œuf, et la Terre, c'est le jaune. Donc, si elle est ronde, on peut calculer sa dimension. Et il a calculé la dimension avec ses cartes, justement.
Ouais.
Et une fois qu'il a eu la bonne dimension, en même temps, c'est un des précurseurs de Pi. J'avais trouvé exactement.
3,14 déjà.
Oui, t'es même allé plus loin. La huitième décimale. Oui, oui, c'était à peu près précis. Donc à partir de là, il a fait le calcul de la circonférence de la Terre. Et alors évidemment, comme un bon chinois, au lieu de la diviser en 4 comme nous, est-ouest, etc., lui il la divise en 8, suivant les 8 trigrammes du Yijing. Bon. Et puis entre chaque huitième, eh ben 10 000, c'est-à-dire beaucoup. Alors donc on divise en 10 000. One. Et le Li fait exactement 500 mètres.
500 mètres, c'est ça.
Mais forcément, puisque c'est le même système qu'on a utilisé, nous, en 1793.
On t'écouterait pendant des heures, c'est absolument. Il faut que tu reviennes nous raconter la suite des aventures. Alors, il faudrait que tu termines sur les routes. Parce que
il a fait le plus grand réseau routier de son temps, bien entendu. Mais il a fait aussi la Grande Muraille, c'est lui le constructeur de la Grande Muraille.
Il avait inventé un système aussi pour mesurer le chemin, je ne sais pas si tu m'as expliqué.
Alors ça, c'est l'autre, c'est celui qui a trouvé les fameux...
Mais avec un système de cloches aussi qui sonnait.
Justement, comme il avait trouvé Epi, avait fait un char qui avait deux marionnettes, l'un qui sonnait sur un tambour et l'autre qui tapait sur la cloche et le tambour. Alors, un Li faisait un coup de tambour et 10 lits, un coup de cloche. Et en même temps, il avait inventé la boussole mécanique. Ce qui est assez étonnant. Il y avait une statue sur un char et qui indiquait, qui pointait du doigt le sud, puisque les boussoles chinoises indiquent le sud. Et non pas le nord. Et évidemment, il n'y avait pas de système de d'aiguillementé ni rien du tout. C'était simplement le calcul du différentiel entre par exemple quand le char tournait, la roue à l'extérieur faisait plus de chemin que celle de l'intérieur, et par un système de pignon. Et il avait
le doigt restait toujours dans la même direction.
Voilà.
Docteur, vous qui êtes fasciné par la Chine.
Ah oui, c'est
impressionnant.
C'est impressionnant.
Et quand on tombe là-dedans, moi je comprends que Patrice soit devenu fou de ça, parce que j'ai abordé la Chine d'une façon bizarre par l'intermédiaire des romans policiers du Justice. Mais après, je me suis un petit peu intéressé, j'ai lu le fameux bouquin qui est Les Trois Mousquetaires plus
les Trois Royaumes.
Qui est un bouquin extraordinaire, c'est pour ça que je posais la question de cette encyclopédie. Qu'il faut absolument que je me procure, enfin pseudo-encyclopédie en tout cas, et je comprends qu'on devienne admiratif, parce que c'est à la fois tellement étranger et tellement familier qu'on est
absolument fasciné. C'est la même chose. Je veux dire, en fait, c'est Voltaire un petit peu qui a été la transmission, la courroie de transmission.
Alors, donc tu as consacré à ce personnage, tu vas consacrer une véritable œuvre, parce que tu envisages une très grande bande dessinée. Le premier album va paraître très prochainement.
Ça va être encore une sorte de petite chose un peu pour attendre, et ça sera en décembre.
En décembre, ça paraît chez qui? Le silence règne sur les colonnes. Tant pis, alors on l'annoncera au moment de la parution.
Ça sera sûrement piqué.
mais si c'est de la qualité du petit objet que tu m'as prêté là, qui est un guide. Que tu t'es une espèce de,
oui, là, c'est
de livre de voyage de référence que tu as fabriqué pour ton usage personnel.
Oui, absolument.
Alors ça, c'est le côté un peu fou de Patrice aussi, parce que on peut dire que ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on se connaît. Je dirais que tu m'as toujours surpris, parce que vraiment, tu es un personnage totalement inattendu. Et alors, quand il fait un carnet de croquis ou un carnet de notes, ça prend l'allure d'un très beau bouquin, bourré d'illustrations, tout imprimé impeccablement sur du joli papier nacré. On a vraiment envie de le voler, mais il ne veut pas. Quand il me l'a dit, je te le montre. Voilà.
Oui, j'en ai fait très peu.
Alors, tu as écrit des livres, Patrice, aussi.
J'ai fait un truc sur les proverbes chinois.
Sur les proverbes chinois. Où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce qu'on peut encore le trouver?
Je crois que crois que, enfin, chez le premier éditeur, c'est épuisé, mais ça a été repris en marabout, un petit bouquin marabout.
Et puis, tu avais édité un truc très amusant, qui était une espèce de jeu de cartes.
Ça, c'est autre chose encore. Ouais. C'est quelque chose qui s'appelait le Goral.
Le Goral, oui.
Et c'est une espèce de réflexion qui a été faite sur les oracles. Et donc, le premier oracle que j'avais trouvé, et je l'avais trouvé en Chine, la première fois que j'avais vu cet oracle. Et effectivement, à partir de là, c'est une réflexion qui nous entraîne de la Chine jusqu'en Afrique noire.
Jusqu'en Afrique, oui. Alors, c'est très intéressant aussi. Alors ça, on le trouve encore. Moi, j'ai la chance de l'avoir. Et c'est un joli objet, en plus. Il y a un petit livre, il y a un jeu de cartes.
Parce que pour le faire fonctionner, il a fallu que je fabrique des cartes pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne, c'est assez drôle.
Est-ce que tu reviendrais prochainement nous reparler de l'empereur Qin, parce que c'est tellement passionnant, et puis de son successeur tout aussi magnifique. Alors, on va prendre rendez-vous et puis tu reviendras nous voir. Je te remercie beaucoup d'être venu ce soir. C'est assez rare d'ailleurs de voir quelqu'un qui vient présenter quelque chose et au moment où on lui dit où est-ce que ça va paraître, on dit on verra ça plus tard.
Rien à vendre.
Merci, Patrice. Marquis, est-ce que vous avez du mal à dire de quelqu'un? Pas de la princesse Murat. Hein.
Non, ça je vous le dirai en dînant. Mais je voulais juste. J'ai combien de temps là? 2 minutes? 3 minutes? Je voulais parler juste d'un film comme ça, Pédale dure. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce film n'est pas très bon. Je pense qu'il a échappé à son metteur en scène, puisque c'est Bertrand Blier qui a fait les dialogues. Et d'un seul coup, on bascule dans l'univers de Bertrand Blier, donc c'est déjà assez intéressant. Mais là, c'est même pas la peine d'aller le voir, c'est pas un film très intéressant. Mais il présente un avantage extraordinaire dans la culture de mort dans laquelle nous vivons en ce moment, où il y en a que pour l'avortement, etc. Dans cette histoire où un couple de garçons veut absolument avoir un enfant, et ben il y en a un des deux qui se dévoue par insémination artificielle et qui fait un enfant et une dame. Et un jour, tout se met en route, tous les papiers sont prêts, tout est en ordre, et la dame annonce qu'elle va vraiment avoir le bébé, la première échographie était patente, et là tout explose, tout bascule, les hétéros, les homos, l'immeuble, le quartier, toutes les boîtes de PD de Paris se mettent à chanter, à faire une fête extraordinaire parce qu'il va y avoir une naissance. Et bien rien que pour ça, je trouve que c'est pas si mal.
Bon, on aura dit du bien de Pédale dure dans cette émission, c'est quand même assez exceptionnel.
Vous n'êtes pas obligé d'aller le voir. Hein, mais bon.
Alors, je signale parce que ça c'est rarissime que un éditeur propose une réédition d'un film qui n'est pas interdit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui s'appelle Le Triomphe de la Volonté de Leni Riefenstahl. Tout le monde croit que c'est interdit, pas du tout, c'est l'histoire de l'avènement du regretté chancelier. Et alors ce livre, on se le procure. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites la tête, vous?
Ça
vous
plaît? Non, parce que c'est pas un livre, c'est un DVD.
C'est un DVD, oui, pardon. C'est un DVD, donc c'est le fameux film de Leni Riefenstahl. Donc on peut se le procurer à l'Homme Libre, 26 rue des Rigoles, pour le prix de 25 €. Et je vous le recommande, c'est un document qui sert l'histoire, vraiment passionnant à regarder. Voilà. À vous.
Je peux dire un mot. Le dimanche 7 novembre à 15 h, bénédiction des animaux à l'église Saint-Rita, que tout le monde commence à connaître. Voilà.
Et alors, Serge, si vous utilisiez le bol d'air Jacquier, nous dit cette auditrice, eh bien, ce serait bon pour vos bronches.
Mais c'est vrai, je l'utilise, je suis un adepte du bol d'air Jacquier, mais c'est simplement, il faut aller loin pour le trouver. Enfin, loin, il faut se déplacer.
Vous êtes à Cuba aujourd'hui.
Et comme mes moyens ne me permettent pas d'acheter cet objet.
Si. Pour rester toujours dans la médecine, je viens d'apprendre qu'à l'hôpital Tenon, à Paris, un de mes amis s'est vu proposer du G5 pour traiter sa sclérose en plaques. Le professeur qui le soigne l'a bien prévenu que c'était qu'un traitement expérimental non homologué en France, et il semble que ce soit le premier traitement qui le soulage.
G5, c'est le produit de l'œil Cloribo.
Oui. Un auditeur qui a pris l'émission très en route se demandait pourquoi il était hier à la 17e chambre, qu'il n'y avait rien. C'est que c'est reporté au mois de juin.
Voilà, 2 juin. J'en reparlerai.
Et puis, je ne trouve nulle part Politique Magazine, dont vous avez parlé dans votre journal. Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir?
Téléphonez-moi au journal, je vous le dirai, on n'a plus le temps du tout.
Si. Samedi prochain, 30 octobre, 15 h à 18 h, Armel Barguillet dédicacera la ronde des Fabliaux à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont.
À vous.
C'est
fini. Alors, à la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6.
à Caen sur 106, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lebeketch, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 27 octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 28, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de...